Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonsoir
à tous.
Bonsoir.
Bonsoir ma chère invitée. Salut Manon. Comment vas-tu?
Bah, ça va bien, merci de cette invitation.
Grand plaisir en fait.
Je suis très très contente de t'avoir dans l'émission. Manon Bril, tu as une chaîne YouTube qui parle d'histoire. Présente-toi.
C'est une chaîne YouTube qui s'appelle C'est une autre histoire et qui parle d'histoire. Donc il y a des vidéos filmées un peu denses de 20 minutes, enfin denses, genre fournies en contenu.
Ouais.
Et il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Plus court et plus accessible, mais c'est une entrée dans l'histoire comme une autre.
Et tu as bien raison, parce que c'est ce que je regarde le plus facilement. Parce que
c'est des images qui bougent, donc moi, il m'en faut pas beaucoup
plus. C'est ta passion.
Bonsoir à tous les gens dans le chat également. Ça va ici autour de la table?
Bon. Avec petite fatigue, Pierre. Mais ça va.
Oui. J'ai l'impression que c'est le moment du générique, peut-être.
Mais ouais, nickel.
Générique, s'il vous plaît.
C'est parti.
Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable
Pierre Lapin.
Ainsi que l'inimitable
Magla.
Sans oublier l'incorrigible
Nota Bene.
Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
Félicitations, Nota Bene.
Bah, en tout cas, la transition s'est faite très smooth.
Parfait, rien à dire, quoi.
On a une petite thématique, on va parler un peu d'études supérieures ce soir.
C'est ça.
Bah oui, parce qu'il y a des gens, je m'inclus pas dedans, il y a des gens autour de la table qui ont fait des études supérieures.
Quelle idée.
Et non, mais c'est vrai qu'il y a
qui ont même enseigné.
Qui ont. Oh là 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 là, mais c'est incroyable, tu rayonnes par ton intelligence.
Oh, bah calme.
C'est simple, ça m'énerve. et en plus, c'est un peu dans la thématique actuelle. Puisque les étudiants, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, nous regardent.
Et gros soutien.
Gros soutien. Et d'ailleurs, petite, sans aucune transition, mais tu as participé.
Mais oui, il y a un marathon. Tu te forces.
Est-ce qu'on a le droit de dire marathon ou c'est ringard? Je ne sais pas.
C'est un peu ringardos, mais j'aime bien.
Je ne dirai plus jamais.
On a le droit d'être boomer ici, je pense.
Moi, je l'accepte. Non, oui, effectivement, on a récolté plus de 130 000 euros avec plein de streamers et streamers ce week-end. Donc, petit marathon, mon premier.
Bravo.
Et petite fatigue.
Pour le secours populaire.
Pour le secours populaire, pour venir en aide aux étudiantes et aux étudiants, effectivement, qui sont un peu dans la dèche en ce moment. C'est un peu compliqué. Et puis, ouais, j'ai pu aller sur place aussi, parce qu'on était accueillis par une école et de voir la réalité.
C'est pas mal, je trouve, de faire finalement tout le marathon. Je m'en fous, je le continue
dis-le,
à le dire.
Dis-le, t'as le droit, ici on est libre.
Au sein même de l'endroit que tu vas pouvoir aider, en tout cas les étudiants, étudiants, c'est pas mal.
Non, et puis ça me permet d'exploser ma bulle et de voir un peu la réalité justement des étudiants et de voir que c'est Clusterland c'est terrible en fait.
Ouais.
Et c'est une violence assez inouïe. Moi j'étais terrorisé et donc de vivre ça au quotidien. Donc gros respect à vous et bon courage en tout cas.
Voilà.
J'espère qu'on a pu apporter notre petite pierre à l'édifice.
Grâce à Pierre et ses amis streamers, il a pris la tunasse et il vous la jette dans la gueule.
C'est ça, voilà.
Vous faites
tout
ça.
En tout cas, c'était très cool.
Ouais, c'était combien de jours? C'était combien de temps?
On en a fait du vendredi au dimanche, ouais.
T'as streamé combien de temps, du coup?
Je pense que là, oh là là, je sais pas, 24 heures plus, et large, ouais, je pense.
Ah oui, t'as bien.
Ouais, parce que le samedi, je crois qu'on était à 15 heures de stream. Donc, bref.
Et t'as levé que 3000 balles, t'es vraiment...
Je suis une merde, en fait.
Oh,
oh, c'était facile, je suis désolé.
Non, c'était trop cool, mais après, j'ai plein d'autres petites news, si vous voulez.
Ah, s'il te
pour
plaît.
Vous, quoi. Est-ce que déjà, toi, t'as pas quelque chose à nous dire?
Ah oui, oui, bien sûr. Alors, bon, ça fait un an que je... C'est pour ça que je suis très content de t'avoir aussi ici dans l'émission, Manon, parce que tu as un format animé que je trouve génial, qui est trop beau. En plus, toute l'équipe qui est dessus...
C'est grâce à Limlu, la dessinatrice.
Mais oui, mais je trouve
qu'elle est
trop cool,
voilà, vraiment super. Elle a un style et une anime qui est vraiment top. Je trouve ça trop bien. Et en fait, il y a peu de contenu d'animation sur Internet. Enfin, je trouve...
Car c'est
en
du
tout
travail.
Cas... Ah ouais, c'est extrêmement long. Et moi, ça fait en fait depuis un an que je travaille sur un dessin animé. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans l'émission. Et enfin, on a pu sortir le trailer et l'annoncer, puisque j'adapte ma série audio qui s'appelle L'Épopée Temporelle en dessin animé. Ça fait un an qu'on est dessus, parce que c'est long le dessin animé.
Ouais,
là, il y a je ne sais plus combien, une heure et quelques de contenu, donc c'est pas mal, quoi. Et du coup, en plus de ça, on annonce qu'on a un diffuseur, ce qui est une grande première pour moi, parce que normalement, je mets ça sur YouTube et je fais, allez, va-t'en, petit contenu. Et là, c'est carrément dans les mains d'autres professionnels, donc Adult Swim, ceux qui sont les diffuseurs historiques de Rick et Morty, Final
c'est
Space,
trop
etc.
Bien. Et non pas un site...
Et non pas un site de cul,
oui,
t'as raison,
oui,
ouais.
C'est vrai.
Mais, non mais voilà, du coup, on a pu sortir le trailer et j'étais très, voilà, c'est content que ça sorte enfin aux yeux des
l'accouchement.
Gens.
Bravo, c'est
long.
Ton bébé, ça y est.
Ouais, ouais, donc voilà, ça sera diffusé dans un mois, sur, voilà. Sur
mais du coup, c'est la première saison.
C'est la première saison, exactement, c'est les 10 épisodes et nous, on va tout faire, même en utilisant la force, pour qu'il y ait une saison 2 et même une saison 3, voilà.
Incroyable.
Félicitations.
Mais bah oui, par l'animation, on fait passer plein d'autres choses. Parce que c'est vrai que toi, ouais, t'es habitué à ça. Tu invites aussi des gens. Mm-hmm.
Ouais, il y a des guests aussi.
Ils viennent faire les voix. Ouais, j'essaye d'avoir des invités divers et variés.
Qui incarnent souvent des personnages historiques dans tes formats.
Soit ils incarnent un personnage dont j'ai besoin de la voix, soit des fois ils sont représentés eux-mêmes. Dans le dernier, il y a Charlie Danger qui est dessiné, qui discute avec moi, par exemple. Il y a toujours mon petit pupette et voilà. et voilà. Et du coup, bah, j'essaye de piocher aussi bien dans les vidéastes amis ou pas, enfin que je connais pas forcément d'ailleurs, des fois que je contacte, et aussi dans les comédiens et les doubleurs. On a eu Lou Howard par exemple,
comédien de doublage, je te corrige,
pardon, tu as bien raison.
Ouais, ouais.
Comédien de doublage.
Non mais bah quoi, j'ai m'énervé, je la corrige,
ça me terrifie à chaque fois.
Voilà, et du coup c'est trop bien quand on a des pros, parce que clairement forcément il y a du jeu qui est autre et qui est trop trop bien, mais tout le monde est parfait, attention.
Non mais je précise, les autres sont vraiment nuls par rapport à des comédiens de doublage. Non mais c'est vrai que quand j'ai fait ma série audio, pour moi c'était sûr qu'il me fallait des comédiens qui avaient vraiment l'expérience de la voix, et donc je me suis fait plaisir. Moi, j'ai eu Dorothée Pousseau qui est la voix historique de Harley Quinn, des sœurs Olsen et tout ça.
Énorme.
Et quand elle a accepté, en fait ça m'a ouvert une porte vers tous les autres comédiens, parce qu'ils ont dit si Dorothée est chaude, c'est que ça doit être marrant et tout. Et donc j'ai eu Emmanuel Curtil qui me fait en plus de ça des personnages nuls, tu vois, donc c'est génial d'avoir le cast, il est insane. Donc Emmanuel Curtil, c'est la voix de Jim Carrey, de Chandler, de Simba adulte.
J'ai vraiment emblématique.
Donc lui, c'est tapé Nala, mon pote.
Peut-être, ouais.
Désolé, Pierre.
C'est un rêve.
Non, mais c'est vrai que c'est. Je trouve que les comédiens qui ont cette expérience-là.
Ça donne une profondeur au truc.
Exactement.
Ouais, tu le ressens directement. Grave.
Dans la série audio, en plus de ça, on avait ce côté un peu homemade que j'aimais bien, tu vois, avec des voix pitchées et tout. Et je m'étais toujours un peu imaginé aussi des séries audio avec des vrais comédiens, tu vois, qui incarnent le truc. Et ça a fait la diff totale.
Tu m'étonnes.
Moi, je fais un personnage, mais qui est d'une fadeur à côté de tous les autres personnages.
Mais le mien aussi, pareil. Moi, je la vois off tout le temps, et c'est voilà. Forcément, c'est pas nos métiers. Quoi.
Exactement.
Mais oui. Ouais. Et d'ailleurs, tu as procédé comment ? Tu leur as fait d'abord enregistrer leur voix, et ensuite vous avez dessiné à partir de ce qui était enregistré.
En fait, c'est ça. C'est la série audio qui est adaptée.
Directement la série.
Ouais. Il y a franchement à 99%, c'est vraiment le même. Enfin, la série audio. Il y a juste quelques petits cuts ou des trucs qui sont rallongés, mais c'est pas grand chose. Et surtout, ça a été remixé parce que nous, la série audio, elle est spatialisée de ouf. Hein. Tu mets les écouteurs ou un casque, t'entends vraiment le gauche-droite, les déplacements. Il y a des pannes, il y a des. Même c'est beaucoup. Enfin. Il y a beaucoup de résonance dans des endroits, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et en dessin animé, t'as une règle qui est un peu de mettre plutôt les voix au centre par rapport au diffuseur. Si toi, t'as une enceinte un peu pétée, que t'entends de plus ou moins les trucs. Et donc, ça a été remixé. Ça, c'est faible par rapport à l'apport de l'image, tu vois, on va dire. C'est ça qui fait toute la diff. Et au final, les artistes, ceux qui ont fait du coup le storyboard et l'animation, en fait, ils ont bien aimé partir d'une version audio.
Okay.
Parce que normalement,
mais ils font pas comme ça d'habitude.
Bah, normalement, tu fais des voix un peu claquées. T'as le réalisateur et ses potes qui font des voix genre.
Oui, c'est dit, tu vois.
Les notes audio.
De tous vos dessins animés français préférés, il y a une version nulle qui existe.
J'adorerais entendre ça. J'adorerais entendre ces versions-là à la place de la version
de
la voix de travail.
Oh mince, on a mal diffusé. On s'est trompé de fichier. Mais ouais, normalement, c'est dans ce sens-là. Et après, ils refont les voix une fois que l'animation est plus ou moins terminée, ou en tout cas, a bien avancé.
Okay.
Toi, tu t'y prends comment, par exemple ?
Bah nous, hein, c'est vraiment micro-production. C'est de briques et de brocs, et on en sort un par mois, donc forcément, faut envoyer. Et du coup, moi, j'écris le script, je l'enregistre, et donc j'enregistre ma voix, les voix des invités. Je fais un premier montage son.
Ah, donc il y a une version
direct. Voilà. Lucie, elle travaille direct, Glimlu, donc elle travaille direct sur le son final. Et enfin, on a déjà fait des tests où j'ai envoyé des voix de travail, mais en fait, elle se sert de l'interprétation des voix pour l'acting des personnages et tout. Et bon, voilà, clairement, on ne peut pas refaire 10 000 fois et tout. En fait, j'ai un boulot de monstre toute seule, même si on commence à bosser de plus en plus avec d'autres gens pour la soulager un peu, mais bref. Et du coup, je lui envoie ça. Elle me fait un storyboard. Donc, le storyboard, c'est découpage, mise en image du texte.
Mais pas avec l'animation définitive,
voilà,
c'est juste...
Voilà, plan par plan, exactement. Donc là, en gros, la caméra, elle va être comme ça, les personnages seront placés comme ça, ce décor, il est comme ça, nanana. Je valide le storyboard, en général... En fait, c'est son métier, elle, à la base, elle est storyboardeuse. Donc en général, c'est absolument parfait. Et ensuite, elle anime tout, plan par plan, vraiment plus en détail. Donc en ce moment, on commence à bosser avec une autre animatrice, Anne Mas, qui va l'aider à faire ça. Et d'ailleurs, prendre en charge cette tâche-là. Et ensuite, elle me renvoie le truc et là, je fais le sound design, le mixage son en fonction de ce qu'elle a dessiné. Je mets les bruitages, les bidules et tout. Et de temps en temps, quand j'ai un peu de budget, je le fais faire par Nicolas Martin, qui est très bon. Et ça, c'est quand il y a plus d'argent, c'est-à-dire pas toujours.
Voilà. Et pourquoi tu t'es lancé dans l'animation ? Est-ce qu'il y avait... C'était un truc où tu t'es dit, il faut absolument... c'est un format qui te plaisait énormément ou c'est...
Ben, en fait, c'est Lucie qui m'a proposé. On était potes à la base et elle m'a dit... ça te dit, on fait un test d'épisodes animés ensemble et tout. On en a fait un ou deux. On a fait les deux premiers sur le cannibalisme et sur la drogue, des mots peut-être censurés par...
Non.
Je ne sais pas. Bref.
La scopolamine.
et du coup, ça a vraiment bien pris. On s'est dit, c'est trop bien. Et en plus, en dehors de le public aime, donc évidemment, ça fait très plaisir quand c'est regardé, bien sûr. Mais on a adoré cette interaction entre nous. C'était... Moi, sinon, je travaille très, très seule pour le reste des vidéos. J'ai ma journée de tournage fun avec mon pote réalisateur et cadreur. Mais sinon, tout le reste, je suis toute seule. Et là, c'est vraiment un travail d'équipe où on s'en renvoie la balle et tout. Donc, on a trop kiffé. On a cherché des financements. On a fait une première saison avec un financement du CNC. On vient de la terminer. On vient de renouveler le CNC. On attend que les sous arrivent. Et on redémarre.
Putain, c'est trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est des trucs où les artistes travaillent longtemps, ça coûte cher. Enfin, l'animation, c'est vraiment galère.
Oui, normalement, c'est un milliard de métiers, en fait. Ouais. Vraiment. Et moi, je découvre, du coup, en faisant ça. Mais...
Moi aussi, en faisant la première saison, parce que j'ai eu cette idée plutôt moyenne de produire également, ce qui m'a épuisé, en fait. S'il y a peu de vidéos YouTube en ce moment, c'est aussi parce que j'ai travaillé là-dessus. Et donc, il y a tellement de. Ce que tu as dit, storyboarder, t'as le clean, t'as un milliard d'étapes.
Les décors, le chara-design, comme on dit, donc c'est la forme. Des personnages, l'aspect qu'ils ont. Enfin, il y a un milliard de métiers, quoi.
Exactement.
Normalement, ça coûte très cher à faire, mais ça, voilà.
Oui, je confirme.
Et du coup, là, t'as plus de monde qui travaille dessus. Tu penses en faire plus d'un par mois ou tu vas rester sur ce rythme-là ?
Non, en fait, l'idée, c'est surtout de soulager Limlu dans un premier temps qui, là, en gros, quand on faisait tout avec elle, elle avait déjà, justement, Anne Mas, avec qui on va bosser plus, qui faisait ce qu'on appelle le lip-sync, donc l'animation des bouches collées sur tes...
C'est un vrai truc, ça, en fait, parce que t'as les personnages qui sont... qui bougent, etc., mais ensuite, t'as vraiment ce truc où la labiale colle bien, tu vois, et c'est vrai que c'est presque une animation différente, en fait, c'est vraiment un style, quoi.
Ouais, et Anne est devenue vraiment excellente à ça, en plus, et du coup, l'idée, c'est d'abord de la soulager parce qu'elle bossait 3 semaines dans le mois pour me faire ses épisodes.
Ah oui.
C'est une storyboardeuse professionnelle, donc elle aimerait aussi continuer ses projets autres dans les studios de dessins animés classiques pour lesquels elle a déjà bossé. Du coup, on a dit, allez, faut qu'on t'allège un peu le travail parce que c'était tout le temps un peu limite burn-out et tout.
Ouais,
ça n'est pas gérable, voilà. Donc, c'est important qu'on délègue un peu.
C'est la base, Startup Nation, enfin.
Mais vu que je suis sa boss, du coup, et que c'est mon ami, tu vois, j'ai une responsabilité.
Oui,
donc, voilà.
En tout cas, je trouve que t'es très méchante avec ta voix. Parce que c'est vrai que les gens du chat aussi sont en train de le dire, mais maintenant je vois ton petit personnage. Enfin, il y a un truc vraiment. Ta voix est incroyable, je trouve.
Ouais, c'est vrai, super.
Vraiment.
Merci.
En plus, avec ce masque et tout, j'ai l'impression de voir vraiment le petit personnage avec les petites couettes là à chaque fois. Non, mais c'est vrai, allez voir parce que c'est vraiment trop cool. Non, mais sinon, pour revenir, c'est vrai, il y a des petites news cette semaine. Bon. On va éviter l'overdose de ce que vous savez, le chat, c'est bon, on a parlé. Mais il y a eu des petits événements aussi dans le monde de l'Internet. Et on a pu voir ce qui s'est passé avec un certain data center. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Et je trouvais ça assez fou. Donc, c'est les locaux de OVH, qui est un hébergeur de sites web, hébergeur de serveurs.
Plus spécialement, vraiment les serveurs.
Les serveurs, quoi.
Les locaux, non.
Et donc, du coup, il y a donc, à Strasbourg, leurs locaux. Et il y a il y en avait 3, je crois, data centers. Et il y a un feu qui est parti du numéro 2. Et du coup, ce qui a impacté... Près d'une centaine de milliers. Bah, on peut voir la photo. Voilà, c'était assez impressionnant.
Ça, c'est vos données, ça.
C'est ça.
Putain,
nos serveurs de Valheim.
C'est ça. OVH, donc, qui en plus communiquait sur le cloud, le fameux cloud, bah, Voilà. Beaucoup de gens ont fait la blague.
C'est parti en fumée.
Voilà, le cloud, lol. Mais donc, c'est assez rigolo de voir qu'en fait, que rien n'est sécurisé et qu'effectivement, bah, y a des, comment dire, des marchands qui ont établi des sites commerciaux là-dessus, bah, qui ont tout perdu. Si tu ne fais pas de backup strat, tu as tout perdu.
Il y a des gens qui ont dû perdre des postes aussi, là, non?
Je ne sais pas, apparemment, c'est un petit truc défectueux.
Okay.
Voilà, parce que c'est vrai qu'apparemment, ils étaient... dans un renouvellement d'activité, je crois, au VH, il y avait quand même des complotistes qui commençaient à dire « Ouais, ils se lançaient sur telle ou telle chose. Ah, peut-être que c'est une feinte. » Non, apparemment, c'est juste un truc. Il y a quelqu'un qui a changé justement un truc. Je ne sais plus si c'est une cosse ou quoi que ce soit qui devait protéger justement un des serveurs et qui a malheureusement pris feu. Donc voilà, accidentel.
Donc c'est quand même quelqu'un
qui a mal fait. Qui potentiellement mal fait.
Moi, je le dis depuis le début, il faut remplacer les hommes par des machines, en fait. C'est vraiment
bah là, on le voit.
Tant vers ça. Évitons ce genre de problème.
Mais non, mais c'est vrai que de se dire en fait que...
Vous avez beaucoup de sites qui étaient down.
Je pense qu'on peut dire, au moins impacté, mais... je pense qu'il y a des millions et down.
En plus de ça, tu sais, il y a ce truc un peu cocorico de non, mais on va pas utiliser les serveurs d'Amazon et Bidule et je sais pas quoi. OVH est un hébergeur historique. Moi, je m'en rappelle vraiment des premières années où ils sont arrivés sur le marché, etc. C'était vraiment un petit peu le fleuron de l'Internet français. Et donc, on pourrait se dire, ah bah tiens, moi je mets mes données sur OVH,
France,
oui monsieur
Médic
France. Et bah ce nuage me fait relativiser. Mais en vrai, bon, c'est... la vérité, c'est que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier.
Ça peut arriver, ouais, malheureusement. Ouais.
Et vous, justement, comment vous sécurisez vos données? Parce que moi, je me dis des fois.
Grand feu, Pierre. Moi, je fais un grand feu, comme ça, il y a personne qui peut y toucher.
Parce que je dis, il y a une bombe IEM ou je sais pas quoi, moi, j'ai rien de backupé.
Bah moi, j'ai fait tout sur
rien,
des petits papiers.
Ouais, déjà.
Dans un coffre-fort.
Bah là, elle a un grimoire, tu sais.
Alors, tu rigoles, mais j'ai un grand livre, j'écris plein de choses.
Voilà. Mais je l'ai vu dans Charmed, je me rappelle bien.
Tu sais, je fais des potions et je brûle des bougies.
Bah,
en plus, pour de vrai, avec un petit fil au milieu.
Et Baby Witch. Non, mais en vrai, moi, vous sécurisez à fond. Moi, je suis le pire. Hein.
Moi, je backup, ouais.
Ah ouais?
C'est sur le cloud, sur l'ordi, sur le disque, ouais.
Putain.
Moi, j'ai le disque.
Ouais, tu vois, t'es tellement plus intelligent que
ça,
nous,
c'est
incroyable.
C'est une expérience d'ailleurs de doctorante, ce genre de
truc. Ah, d'accord.
Ça t'a pas envie de perdre ta thèse, par exemple.
Ah, bah oui, j'imagine.
Du coup, bah, ça m'est pas arrivé, mais on m'avait mis en garde et tu te dis, ah ouais, non,
chaud. Est-ce qu'il y avait tu sais, la rumeur, genre, il paraît qu'il y a un mec, il a perdu toute sa thèse.
Et il a dû abandonner une semaine avant la soutenance.
Son chien a mangé son serveur. Il a perdu sa thèse.
Non, mais du coup, tu fais, allez, je vais prendre le temps de le mettre sur le disque dur, c'est pas grave.
Mais par contre, je suis passé, moi, d'un truc où le disque dur était assez important. Et maintenant, j'ai vraiment tout sur différents clouds, on va dire. À savoir, moi, c'est beaucoup Google et Dropbox et tout ça, tu vois. Et du coup, ce qui fait que, genre, si je change un ordi ou n'importe quoi, ou même je peux être sur plusieurs ordis ou mon iPad, et en fait, j'ai pas besoin d'avoir de stockage vraiment dur, juste quelques trucs, on va dire.
Mais l'important, c'est que tout soit pas au même endroit et doublé, voilà. Mais je suis pas sûre d'avoir tout bien fait proprement. Mais
t'as déjà fait bien plus que nous, je pense, déjà.
Écoute, t'as fait tellement d'études qu'on te croit que t'as
fait... Oh là là, me faites pas ça.
Non, c'était un petit événement aussi. Il y a eu un autre événement. Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo Genshin Impact?
Oui, jamais testé, mais...
J'adore quand tu le dis, la bonne France là-dedans. Si j'entends les flammes d'OVH quand tu parles.
Genshin Impact. Donc, qui est un jeu monde ouvert, action RPG, qui s'est lancé, je crois... l'année dernière et qui a fait un peu le buzz. Il y a une mécanique un peu de gacha, donc tu vas essayer de tirer des packs pour avoir des personnages plus forts que d'autres.
Le jeu est gratuit, mais tu dépenses la thunasse pour
exactement
bien
voilà
sûr, les gachas.
C'est pay to win, voilà. Et ils se sont dit, bah tiens, on va faire un event.
Oui.
Incroyable, en pleine
avec
pandémie.
Jean Castex, mais putain, mais
non,
c'est des idées nulles.
C'est lui qui offre des skins, voilà, à Genshin Impact. Et non, ils ont décidé de faire un partenariat avec KFC.
Okay.
Et ils se sont dit, bah tiens, on est en pandémie, qu'est-ce qu'on ferait pas? Bah un truc avec KFC, donc on va demander aux gens de venir récupérer son loot.
Oh non, mais super idée ça. Ah.
De venir prendre un repas Genshin Impact et aussi de pouvoir récupérer, je sais pas si c'était cosmétique ou un diluc et tout ça. Et donc du coup, à travers la Chine, il y a eu des rassemblements absolument horribles partout.
Okay.
Et donc du coup, ils ont été contraints de tout annuler car ça partait en cluster. Et donc du coup, ils ont arrêté cet event parce qu'en fait, c'était un event, tu pouvais avoir, je crois, des
wings,
persos, des skins. Tu peux avoir des wings déjà. Et un pack de Genshin Impact, mais qui sera disponible que cet été. Donc, tout le monde était fou. Et tu avais le droit à un pins. Voilà. Donc, tout le monde voulait avoir son pins.
Attends, mais le pins, c'est important quand même.
C'est important, en vrai. Je peux comprendre.
Bon, certes, tu peux choper le Covid et tout.
Mais le
pins, il ressemble à quoi exactement?
Ah, ça, je sais pas du tout.
Tu vois, peut-être ça va. Je sais pas.
Non, c'est important, je veux voir comment ça ressemble.
Non, mais on voit qu'il y a plein d'événements comme ça, parce que je sais qu'aussi, il y a quelques mois, il y avait McDonald's aussi avec Cactus Jack et...
je sais pas du tout de quoi tu parles.
Tu vois pas Travis Scott,
il est très joli.
Qui a fait une collaboration avec McDonald's aussi. Okay. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au McDo pour essayer de looter des choses. Mais bon, c'était la meilleure idée.
On me dit ah il y a un événement là pour récupérer un truc, mais même pas en vrai je me déplace.
Non.
Enfin je sais pas. En fait, après on est peut-être un peu trop psycho et tout ça. Visiblement il y a des gens en Chine qui se sont dit que c'était une bonne idée. Mais non moi je me vois pas du tout.
Parce que justement moi ce week-end c'est la première fois que je voyais autant de gens.
Mais ça fait bizarre.
Et j'étais paniqué.
Mais c'est je comprends terrible. Ce que tu veux dire, parce que cet après-midi, je suis allée faire mes courses à Levallois, et moi, il faut savoir que j'habite dans une ville de papy et de mamie qui ne sortent pas. Mmh. Du coup, quand je vais faire mes courses, je suis toute seule.
Ça fait 50 ans qu'ils sont confinés là-bas.
Mais vraiment. Et là, je suis allée faire mes courses à Levallois, j'ai croisé plus d'une douzaine de personnes, ça m'a fait bizarre. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais oula, mais attends, mais ça fait longtemps, je me suis dit, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Ouais. Ça fait très bizarre.
Terrible.
Et ce truc dans les. Attends, on en a déjà parlé, mais quand tu vois dans les films les grands rassemblements ou les gens qui se claquent la bise, ça vous fait rien, vous?
Quand les gens se font un câlin, ils se connaissent pas, je fais
calmez-vous.
Mais oui, mais c'est comme quand ils préparent des fictions. Maintenant, je me demande pourquoi ils intègrent. Tu vois, forcément, ça a été préparé avant ce qui sort maintenant, mais je me dis, ça pourrait être un peu plus intégré le truc de la vie de tous les jours. Il y a des masques. Genre, je suis en train de regarder The One. Eh bien,
Je regarde aussi. C'est très bien.
Je suis accro. J'essaie de pas trop le
binge. Je le binge. C'est terrible.
Oh là là. Bon bref.
On va vous laisser les filles.
Ouais. Et du coup, j'arrête pas de me dire, mais dans quelle dystopie ça se passe? Vu que on dirait pas qu'il y ait le Covid, mais bon, forcément, ça a été préparé avant et tout. Mais
ouais, en fait, t'as envie de rendre ce truc-là. Enfin, je sais pas. Ouais, mais je comprends. Mais moi, ça. En plus, je regarde parfois des vieux films. Tu sais, il y a un match de baseball des années 70, et moi, je suis en mode, oh les gars, vous abusez, tu vois. Mais arrêtez conneries, tu vois. C'est fou comme ça nous a.
Mais après, je vois beaucoup de voix s'élever aussi, justement, où les gens veulent pas qu'ils implémentent le Covid dans leur fiction parce qu'il y a ça tous les jours, c'est anxiogène.
Ouais, c'est vrai.
Bon, moi perso, je m'en branle et justement, ça me stresse plus de voir des gens se taper la bise, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend des gens, effectivement.
Ouais, je peux comprendre.
Dans 10 ans, on fera bon là, les gars, on va être obligés de faire une fiction avec eux. C'est bon, là maintenant, il faut qu'on
y a le film de Michael Bay qui sort, je crois, sur le Covid.
Ah oui, c'est vrai.
Ah, ok.
Qui a l'air d'être incroyable.
Est-ce qu'il y a des explosions sous les masques?
Il en est capable.
Juste dans le chat, on nous dit les vidéos de festival. Et c'est vrai qu'avec les Daft Punk, là, il y a eu plein de vidéos de festival. Et moi, j'étais en mode, c'est pas possible, tu vois. Alors que c'est dans le nom, c'est 2007, tu sais. Non, fallait pas, tu vois.
Ouais, parce que j'étais justement le Coachella qui a été retapé en HD. Je sais plus, il y a des gens qui ont retapé les flux de la vidéo. Et je me disais, oh mon Dieu. Mais là, tu me demandes d'aller demain. Je pense que vraiment, je fais une crise d'angoisse, quoi.
Oui, ça va peut-être créer des nouvelles angoisses,
du coup, quand
on va reprendre une vie normale.
Surtout quand tu vas t'enfermer, du coup, tu vois des gens, tu te crées une anxiété sociale, en fait.
Et en même temps, moi, je me fais vacciner, je pars en vrille
direct.
Tu lèches les
arts de métro.
Et vaccinez-moi en dernier. Parce que si je suis vacciné, moi, ça repart comme dans les années 70, mais dans un match de baseball.
Attends, tu peux quand même le diffuser, non?
Mais écoute, docteur. Écoute, docteur. Je m'en fous, je pars en vrille direct. Non, mais c'est vrai que tu cherches un peu cette bulle-là, mais pour l'instant, elle est. Voilà.
Ouais, je crois qu'il y a le syndrome de la cabane qui.
C'est quoi ça?
C'était quelque chose, justement, je crois, qui a été étudié, je crois, justement, en Espagne, où des gens ne voulaient plus se déconfiner, en fait. C'était pour le premier confinement, où les gens, en fait, moi, ma vie, enfin. Je suis bien, je me suis fait mon havre, j'ai plus
de. En vrai, je comprends un petit peu quand tu t'es pris l'habitude, etc. Et tu dis, oui, mais de toute façon, ça dure encore dehors. Et si j'ai pas besoin de sortir, pourquoi sortir? Mais c'est pas bien. T'sais.
Moi, j'avoue, j'en ai marre un peu.
Ouais, je comprends. Là, ça devient dur.
J'aime bien comment tu. comment tu verbalises
ça. Non, mais la santé, c'est aussi la santé mentale.
Ah, mais voilà.
Bien sûr.
Mais bon, c'est comme ça.
C'est vrai que là.
T'es contente de faire l'émission avec nous? Ça te fait
sortir.
Mais de ouf, mais vraiment. Oui,
c'est vrai que ça fait du bien.
Tu sais quoi? On va installer des sortes de mannequins qu'on va nettoyer et on peut leur faire la bise.
Alors non, ça j'aimerais l'abolir.
J'ai un pote qui m'a donné une technique pour qu'on se fasse quand même des câlins que je trouve trop mignonne, c'est que quand on se retrouve, on met un manteau à l'envers sur nous, comme ça, avec la capuche sur la tête et on se prend dans les bras. Enfin, moi je suis célib et du coup j'ai pas pris quelqu'un dans mes bras depuis trop longtemps, les gars. Et c'est l'enfer.
Du coup, ça
fait du bien de faire des hugs au pote.
Mais ça te fait pas bizarre du coup de avoir un câlin?
C'est un peu genre.
Mais en plus, t'as la capuche dans ta gueule donc y a vraiment rien, quoi.
L'idée c'est qu'on fasse pas un truc dangereux, tu vois. Ouais. Mais ouais, carrément.
C'est beaucoup de setup quand même.
C'est ça
vaut le coup.
Un système de poulies et de gel hydroalcoolique en même temps. Mais moi je dis juste, au moins, on peut claquer la bise au petit bouffe-tout là-bas qui est. rester là-haut, tu vois. Voilà, ça donne l'impression.
Je préfère finalement. On va s'abstenir.
Non, j'ai une petite news aussi à vous faire deviner qui est un peu liée à une vidéo qui a fait le buzz récemment. Je vais raconter, je vais vous demander. Il y a une mère de famille en Pennsylvanie qui a été arrêtée car elle complotait contre la rivale de sa fille, Pom Pom Girl.
Quoi ?
Donc elle a fait quelque chose.
Je ferme les yeux pour essayer de comprendre. Mais alors, moi, j'ai pas de doctorat, donc je suis très stupide pour l'instant.
Ginny et Georgia ou un truc, c'est.
Mère de famille arrêtée parce qu'elle complotait contre la rivale de sa fille.
Qui était Pom Pom Girl, la rivale Pom Pom Girl et tout ça. Elle a dit je vais faire quelque chose pour essayer de l'unir.
On doit trouver quoi ?
Voilà. Est-ce que vous avez une idée ? C'est logiquement en relation avec une vidéo qui a fait le buzz récemment.
Ah bah c'est ça, je peux pas
trop. Et qui est liée un peu à l'internet.
Est-ce que c'est du deepfake ?
Elle.
Parce qu'elle a, elle a craché sur
Et j'ai pas de doctorat, mais...
Si rapide.
Mais t'as vu ?
Si rapide.
Elle a fait un revenge porn avec une deepfake.
Attends, elle a quel âge, c'est quel âge, sa fille ?
Oh bah, ça, je pourrais pas dire, mais bon, je pense que c'est...
C'est quoi, c'est la fac elle,
ouais, je pense à 19. Donc, effectivement, elle a donc utilisé du deepfake pour donc mettre le visage de sa rivale en train de fumer des gros joints de bédo, faire boire des coups.
Oh là là, attention, parce que c'est vraiment genre le pire truc qui pouvait te discréditer.
Effectivement, apparemment, il y a des bails aussi de nude et tout ça. Et donc, effectivement, la technologie qui peut faire peur, parce qu'on a vu récemment, donc on a la vidéo là, effectivement, c'était un TikToker qui avait pris les traits de Tom Cruise et qui avait un peu impressionné la toile. Et donc, qui impliquait qu'effectivement, le deepfake peut devenir à terme un souci, une arme
bonne
politique.
Excuse.
Des trucs comme ça. Une bonne excuse, comment ça ?
C'était pas moi !
C'était pas...
Ah oui, j'avoue. Tout est un deepfake aussi. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai... Alors, il y a une sorte de petite application également où tu envoies une photo et ça te fait parler.
Ah, oh, c'est pas
ça fait parler
ça,
une photo.
Okay. Mais c'est ça.
Qui marche très bien, je trouve.
Et MyHeritage.
On m'a envoyé, moi, ma photo de profil qui, en plus, est toute claquasse. C'est et mon personnage, bizarre. Enfin, ma gueule, parle et chante. Et je l'ai partagé tellement j'étais choqué en fait de voir à quel point ça marchait bien parce que je me voyais, je m'ambiançais moi-même. Alors, enfin bref, c'était très deep tout ça. Et en dessous, il y a des gens qui
ont
posté des tweets qui voilà, échangé là-dessus. Et il y a quelqu'un qui disait on l'a fait avec une prof, tu vois. Donc, ils ont juste pris la photo de la prof et ils l'ont mise sur l'application. Et vraiment, ils ont été convoqués par dans un lycée, je pense. Ils ont été convoqués et tout. Et genre, il fallait absolument supprimer et tout et tout. Et ils y sont allés en serrant la vis, mais je pense que c'est, à mon avis, la bonne démarche. Ensuite, il y a d'autres gens qui disaient en dessous, non mais ça va, on peut plus rigoler et tout, mais en vrai, je pense que...
Ça reste l'identité de quelqu'un.
Même
ça,
c'est ouf.
Moi, je trouve ça très malsain.
C'est... Ne faites pas ça, bien sûr.
Et en même temps, moi qui chante Cascada, c'est quand même fou. Parce que ça marche, c'est très très bien, quoi.
Donc... Surtout Cascada, là, tu touches une corde sensible chez moi. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a eu aussi MyHeritage qui redonnait vie, soi-disant, à tes ancêtres, donc qui a fait le buzz.
C'est quoi cette histoire récemment. Du donner à la sortie cette excuse à son procès pour avoir insulté une magistrate ? C'est pas moi, c'est un deepfake.
C'est réel, c'est ça, Payette, ou tu trolles ?
Vous avez inventé quelque chose ?
Non, mais il y a deux personnes qui le disent, donc en vrai...
Ah ouais, putain, la vache.
Et bah, c'est vrai que c'est.
Ah oui, bah, comme disait Manon, t'avais raison en fait.
Est-ce que ça va pas devenir le chien ? C'est mon chien qui a mangé mon devoir. C'est. Non, c'est un deepfake.
Ah, c'est réel ! Putain, la vache !
Non, c'est vrai. Ok. Donc, on me dit. Ah mince, c'était donc pas toi dans la sextape, Cyprien. Non, vrai, mon pote.
Non, mais c'est vrai que c'est.
Article qui date d'une heure. Ouais, on est les premiers sur l'info.
Putain. Ah, mais c'est. Ah, d'accord !
D'accord, ok.
Ok.
Ça donne très envie. Non, mais ça donne, ça donne envie de sortir cette excuse à toutes les sauces, quand même. Alors, t'étais en retard ? Non, c'était un deepfake. De quoi tu parles ?
Rien à voir.
Incroyable.
Non, bah. mais je sais pas où ça va nous mener, tout ça. Est-ce que politiquement, ça peut être utilisé, tout ça, comme une arme ? Je sais, c'est curieux. Est-ce que, du coup, maintenant, on va falloir contrer ? Comment tu fais ça ?
Ouais, ça va être facile.
Donc, Internet, c'est magique. Non, sinon, il y a eu un bug, effectivement, chez Twitter ces derniers jours. Des centaines et des centaines de comptes ont été supprimés. Est-ce que vous savez pourquoi ? Il y a une vague.
Bug. Ce n'est pas OVH, cette fois.
Non, c'est pas vague. Effectivement, il y a eu un bug Twitter.
Oui.
Pour chaque occurrence du mot Memphis, Twitter...
Supprimer le compte.
Supprimer, enfin, 12 heures, la permission de tweeter des gens.
Est-ce que c'est pas quelqu'un qui était énervé contre ce mot et du coup qui l'a mis, qui l'a créé?
Je ne sais pas. Sur.
On parle de la ville de Memphis.
Donc Memphis, et donc ça a été problématique parce qu'il y a un joueur de foot de l'OL, je ne me trompe pas, je suis footix, Memphis Depay. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il devait jouer et tout le monde tweetait sur Memphis. Il y a des gens qui commençaient à troller. Comment il s'appelle déjà, le mec de l'OL ? Et du coup, tout le monde s'est fait supprimer son compte à tour de bras. Et Twitter a dit, donc effectivement, il y a eu un bug. Donc voilà, une modération à la ZUB, comme d'habitude. Ça laisse passer des horreurs absolues. Mais Memphis, ça ne passe pas. Donc voilà, des centaines et des centaines et des centaines de comptes qui ont été supprimés.
Et ils les ont récupérés ou pas?
C'est 12 heures. Enfin, supprimés, c'est, c'est désactivés pendant 12 heures.
D'accord.
Qui est de plus en plus répandu d'ailleurs.
Ce n'est pas un bug. Enfin, c'est, on est d'accord que c'est.
C'est quelqu'un qui détestait le footballeur.
Peut-être qu'il a mis un ban word, je ne sais pas.
Ouais, c'est bizarre.
Non, c'était un test. En fait, ils se sont dit, on va faire un test, on va voir si ça marche, on va mettre un mot, pas trop.
Ouais. Cette ville pourrie, là.
C'était sans compter.
Et pour moi, c'est l'équipe de modération de Twitter. Et un gars, c'était son dernier jour, et il a fait, on va se souvenir de moi. J'habite.
C'est la ville de George Floyd.
Il n'y a aucun lien. Okay. Bon, en régie, on nous dit que ce serait la ville de George Floyd, mais je ne vois toujours pas de lien entre ça. Mais oui, donc, je pense que c'est un connard qui a dû écrire ça et qui a fait allez, ciao, tu vois.
C'est son pot de départ. Hé, hey, les gars, let's go.
Je suis bourré. On teste des choses. Donc, ouais, Twitter, donc, le message pas ouf, parce qu'effectivement, la modération sur ce réseau, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de gens autour de moi qui se font supprimer, qui se font désactiver pendant 12 heures. Pour en réaction, qui se font beaucoup signaler par une certaine frange à droite, et du coup tu te fais supprimer facilement tes comptes maintenant.
Et c'est pendant 12 heures.
Je vais tester. 12 heures, je vais tweeter.
Et aussi, tu as les DMCA aussi de plus en plus. Moi, je me suis fait désac mon compte aussi pour des DMCA sur Twitter.
Ouais, mais c'est
un
mérité,
vieux tweet il y a 3 ans. J'ai cherché. Voilà un vieux montage de Cyprien avec Cascada, et malheureusement.
T'as pas eu de problème avec tes réseaux sociaux, toi, c'est bon.
Récemment, j'ai fait une petite vidéo pour la Journée internationale des droits des femmes, un petit TikTok que j'ai remis sur Twitter, quelle bonne idée, où je listais tous les pays qui avaient eu le droit de vote avant les femmes.
Trop bien, il est trop bien ton TikTok.
Et du coup, je me suis pris évidemment une vague de haine. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment le degré zéro du militantisme. Quoi. Ouais.
C'est,
juste
de l'information. C'est
Wikipédia, des dates avec du sel, certes, j'assume le ton cynique de la vidéo. Mais du coup, je m'étais dit, waouh, alors ça vous énerve. Ah ouais, d'accord, oui, c'est chaud. On est mal.
Toi, ton TikTok, c'était juste de dire en quelle année le droit de vote des femmes
ultra intéressant, en plus.
A été autorisé en France. Et t'as dit juste tous les pays qui l'ont fait avant.
Et en plus, il y a plein de gens qui ont fait, c'est faux, elle ment et tout. Parce qu'en fait, j'ai bien précisé exprès le droit de vote total ou partiel. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des pays où c'était donné que, par exemple, c'était un vote censitaire, que aux riches, que aux blanches, machin.
Mais les gars, ils creusent.
Plus que personne. Et du coup, tout le monde est en mode « Non, en plus, elle ment, c'est des fausses dates !» Des fausses dates. Et j'étais là « Non, je l'ai dit exprès, 20e siècle, droit de... » Bon, bref. Et donc, juste avec ça, mais vraiment, pour moi, c'était le degré... c'était rien, quoi. Mais il faut regarder les RT cités, mais c'est incroyable. Le nombre de gens aussi
qui disent... On va faire ça, là. De toute façon, on ne savait pas quoi faire pendant l'émission. On va regarder ça.
Plein de gens qui disent « Ouais, mais elle cite des pays où les droits des femmes, aujourd'hui, c'est la cata et tout. » Et je fais « C'est précisément mon point. » C'est de dire « Regarde, c'est chaud. On l'a eu après certains pays. » Enfin, en gros, mon point, c'est de dire « Faut pas trop qu'on la ramène, quoi. » Tu vois. Oui. Bon, bref.
Voilà. On embrasse tous ces gens-là qui ont
partagé.
On tente aussi d'informer les gens.
Ouais, c'est ça. On se rend compte par rapport à. Qu'on était quand même plutôt à la bourre, même si oui, on n'était pas les derniers, bien sûr. Mais
non, c'est quand même.
Non, c'était pas les derniers, c'est clair. Mais voilà.
Ton TikTok était très drôle. C'était parfait. Voilà.
Moi, je trouve que t'as très bien fait.
Bah oui, je l'ai laissé.
Mais donc, du coup, sur TikTok. Est-ce qu'on peut comparer sur TikTok? Ça t'est bien.
Là, Pierre vient de se réveiller énormément.
Moi, je sais lire.
Non, mais est-ce que tu vois, par exemple, c'était accepté sur TikTok?
Eh bien, figure-toi que j'étais très agréablement surprise parce qu'il y avait le même genre de commentaires, mais alors ils se faisaient répondre et défoncer et nanana. Et je me disais, ah putain, les jeunes générations, ils sont un peu plus au taquet. Alors que sur Twitter, ça a moins. Mais bon, voilà, après, je pense que c'est aussi. Tu sais, c'est une question de dans quelle sphère ça tombe.
Ouais.
Et du coup, si ça arrive sur ce Twitter-là, bah, ça va faire du bruit. Mais peut-être que dans mon TikTok, c'est resté un peu plus dans. Ouais. Regarde, enfin, c'est vachement lié à ça aussi.
C'est lié à Twitter aussi, parce que la bulle dont tu parles, ça va toujours dans la même.
Voilà.
Toujours.
Un plaisir. Bon, le TikTok, Pierre. Oui. Un plaisir, donc, une nouvelle fois, quoi. Mais t'avais des soucis, mais tu t'étais fait censurer sur TikTok, je crois aussi, non?
Ah oui, alors par contre, je me fais très souvent censurer sur TikTok parce que l'algorithme de TikTok, il est au taquet sur la nudité.
Okay.
Et du coup,
quels sont tes TikTok exactement?
Alors, c'est là que tu vas halluciner, car je fais des petits TikTok où notamment j'explique des tableaux et la mythologie dans les tableaux. Tu vois, une petite minute et tout.
Je trouve ça déjà un peu hot. Tu m'en parles, je suis déjà un peu horny, mais là, vas-y.
Figure-toi que je me fais régulièrement striker parce que il y a pour des poitrines d'hommes peintes.
Ah ouais?
C'est-à-dire tableau d'Apollon.
C'est le téton, quoi, qui pose ici.
Ouais, et bah bon, alors du coup, pas sexiste pour le coup, genre tout le monde y passe, les seins ou les torses d'hommes. Mais du coup, je me fais striker pour des tableaux d'Apollon ou des trucs comme ça, tu vois. Ah, donc, ouais. Un peu chiant, mais du coup, ben, maintenant, j'ai un contact chez TikTok avec qui je fais « J'ai été striker, s'il te plaît ». Mais après, ça plombe quand même les vues pendant quelques jours, mais bon, c'est comme ça.
Est-ce qu'on n'arriverait pas dans une sorte d'imagerie qu'on ne connaît pas, qui est de flouter des poitrines d'hommes, parce que je trouve ça génial en fait. Ce serait tellement drôle quoi.
Bah,
tu sais, les gros
bandeaux.
Pixels.
T'as mis vraiment des bandeaux
sur
des torsos.
J'ai essayé de faire comme ça, des fois ça sautait quand même. Enfin, en fait, je pense qu'une fois, il y a un moment où ton compte il est répertorié comme potentiellement problématique.
Ah, Shadowban.
Après, en vrai, je comprends que l'algo soit au taquet parce que sur TikTok, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu sais. Du coup, contrairement à YouTube où tu peux cliquer, mettre une limite d'âge ou machin. Sur TikTok, c'est quand même un public très jeune.
Ouais, c'est vrai.
Et n'importe qui poste sa teub, bim, il y a 100 gamins qui l'ont vu.
En vrai, c'est très bien.
Donc, en vrai, je trouve ça pas plus mal que l'algo soit un peu au taquet. Ce qui m'énerve plus, c'est que je vois plein de mecs torse nu.
C'est ce que j'allais dire.
Balader sur TikTok et je suis là.
Bah, poste eux mais plutôt que tes Apollons à la con.
Ouais, c'est clair. Voilà. Bon.
Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, Manon Bril, pour TikTok, tu es une meuf qui balance des trucs très problématiques. Elle parle d'histoire et elle fait toi, je te surveille. Hein.
Ouais,
c'est génial.
Non, voilà, il y a des petites news. Après, ouais, en ce moment, c'est la saison des cérémonies. Donc, je sais pas si ça vous intéresse, les cérémonies. Est-ce que c'est toujours.
Moi, j'ai juste
cool
vu un petit
vous.
Extrait de.
Parce que c'est vrai que c'était une année culturellement un peu compliquée.
Ouais.
Donc, c'est vrai que là, ça a enchaîné. Il y a eu les Golden Globes récemment. Donc, pour le Cinoche et les séries télé. Donc, The Crown a tout ramassé. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi.
Non, j'ai pas suivi.
J'ai vraiment pas suivi non plus.
Donc, là, il y a eu les Golden Globes, il y a eu donc les Césars, donc il y a eu lieu à l'Olympia ce vendredi.
Ça, j'ai vu un petit extrait vraiment.
C'est Dupontel, donc il y a.
Dupontel a tout ramassé, quoi. Mmh. Enfin, c'est fou pour son film Adieu les cons. Effectivement, c'était un peu la radia.
J'ai vu des petits extraits d'event, de trucs qu'il faisait sur scène. Et je trouvais ça un peu. Je sais pas si c'est l'année qui fait ça.
Oh, ça a toujours été un peu chaud, les scènes.
Là, il y avait du creep.
Ah oui.
Ouais, c'était un peu.
Ouais, ça fait bizarre.
Bah, après, ça dépend. Je pense qu'il y a par contre, il y avait des prises de position qui étaient assez importantes, parce que surtout, je pense que c'est un pan culturel qui est sacrifié. Donc, je pense qu'il y avait des choses quand même à mettre sur la table et qui étaient importantes. Mais après, c'est vrai que des fois.
Mais je me demande, en fait, si ça nous concerne, en fait. Enfin, si vraiment ça s'adresse à nous, ce genre de ce truc.
Enfin,
en fait, il y a une cam, une réal et tout, tu vois. Comme ici, en fait. Ils ont le même réalisateur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, quand tu vois ça, t'as l'impression de pas être concerné, en fait. Ils parlent entre gens d'une industrie, tu vois. Donc, et effectivement, il y a des caméras, ils font des sketchs, des trucs et des revendications et tout ça. Mais en vrai, moi, on me file la liste, ça me va très bien, en fait.
Bien sûr. Mais surtout qu'on a souvent ironisé sur les intermittents qui viennent souvent au César. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est une bulle, c'est des gens qui font ouin ouin. Mais c'est vrai que des fois, tu vas dire, ouais, il y a Marina Foïs qui se plaint. Genre, elle est plutôt privilégiée. Mais ce qu'on oublie, c'est que derrière Marina Foïs, les intermittents, c'est beaucoup de corps de métier, beaucoup de précarité. Et c'est vrai que ça cache une misère absolue. Enfin, moi, je vois sur les tournages, enfin, un tournage, c'est des 80-90 personnes minimum, même pour une journée. Donc, c'est vrai que derrière tous ces gens-là, il y a une vraie précarité et c'est important. Mais c'est vrai que des flous, le César, il y a peut-être un truc de vulga à faire des fois. Et je trouve que cette cérémonie souffre un petit peu d'entre-soi et de. J'ai un peu de mal.
Merci, Pierre, de faire avancer la chose.
Non, mais je sais pas, mais moi, je suis moins sensible. Après, il y a d'autres choses. Tu vois, les Grammys aussi, c'était un peu particulier aujourd'hui, mais ça me touche pas forcément. Moi, je sais que les Oscars, j'aime bien parce que le Cinoche, c'est mon
c'est
truc.
Plus hollywoodien aussi, déjà, de la mise en scène, etc.
Ouais, de ouf. Mais tu vois, même. Enfin, c'est nul, mais je dis, tu vois, en cette période de crise, tu vois, est-ce qu'on a envie de. Enfin. Il faut valoriser l'industrie et tout ça. Mais est-ce que ce côté bling-bling là, il n'y a pas une espèce de dissonance, tu vois? Je voyais des gens overlookés hier et tout, c'est très cool pour les yeux et trucs comme ça. Mais dans l'époque actuelle, c'est vrai que cette année, les cérémonies, je les vis un peu d'une autre manière. Donc je ne sais pas pour vous, mais.
C'est vrai que ça donne l'impression qu'on se met un peu en stand-by, on attend. Et du coup, voir des choses comme des cérémonies, etc., qui sont faites différemment. C'est vrai que c'est
genre on fait crari aussi justement tout va bien alors
et
que non
c'est pas le festival de Cannes qui a dit qu'il se ferait quoi qu'il arrive je sais pas
si,
quoi
si apparemment
tout.
Ouais je crois qu'il y a des pistes
c'est incroyable quand même de dire ça parce que mais en mode en présentiel avec tout le monde et
fou
je crois que les pistes qui étaient évoquées c'était déjà de pas le faire forcément en mai comme ça fait mais peut-être faire en été et tout ça enfin je crois qu'ils voulaient refaire sur certains mois je sais plus ce qui a été dit mais effectivement apparemment ils veulent vraiment le faire c'est ça a disrupt. Ouais, on a pu voir des cérémonies qui se font que en Zoom, effectivement, sur les Golden Globes, ça a été en Zoom. Là, après, pour les Césars, ils l'ont fait en présentiel à l'Olympia. au Grammy hier soir, les gens étaient là, mais non, mais c'est assez bizarre et je trouve qu'il y a un côté très dystopique, très chelou, je trouve.
Moi, je suis pas un grand fan des cérémonies globalement, tu vois, parce que en vrai, ce truc de t'as les quatre caméras qui attendent, et l'enveloppe et tout ça, tu sais, en fait, c'est une faille temporelle. Tu regardes un, tu regardes mille, tu vois. Et donc, du coup, en vrai, si moi, il y a juste le lendemain, tu sais, le résumé, en fait, un tel a gagné, je trouve ça très bien aussi. Mais après, peut-être que d'autres gens adorent et ils suivent ça.
Ouais, il y a le côté people que les gens adorent.
Ça, c'est cool.
Ah, oui, oui.
Tu vois les people. Alors, les tenues. Encore plus la canne et tout. Mais... Oui.
Les belles chaussures.
Alors, les belles chaussures.
Les belles robes.
Et ouais, leurs chaussures font pas de LED, alors bon.
Ouais, j'avoue.
Là, tu te calmes. Elle se la raconte, mais regardez-la.
C'est vrai, regardez-moi ça.
Elles sont incroyables, elles changent même de couleur et tout.
Taylor Swift n'avait pas ça hier soir.
Ouais.
Est-ce que vous avez déjà capté ce que c'était un César, justement? Vous savez, c'est un artiste César
compression,
qui compressait des voitures. Voilà, c'est tout. C'était une
anecdote. C'était un petit trivia, quoi.
Madame la docteur.
Oh, mais oh là
là. Il n'y a pas le monopole de la culture générale.
Faut que je dise un truc con.
César, s'il te plaît. On savait, c'est un artiste et qui faisait de la compression. Et en fait, c'est une œuvre qui existe en énorme. Il existe aussi en petite et qui est distribuée par tout le monde.
Je me dis, entre recevoir un Oscar ou une compression de voiture, c'est pas la même classe.
Il y en a qui ont eu les deux, Jean Dujardin. Il peut comparer, c'est stylé quoi en vrai. Quoi.
Ouais, bah on va l'appeler tout de suite.
Non, mais il y a eu deux record woman hier, à savoir Taylor Swift, qui est la seule artiste féminine qui a eu trois fois meilleur album d'affilée.
Beau.
Et Beyoncé, qui a eu récompensée pour la 28e fois, donc qui fait d'elle l'artiste la plus récompensée.
Vive Queen Bee.
Au Grammy Awards.
L'artiste tout court ou. Enfin, tu veux dire. Les deux sexes confondus.
Ah, il me semble que c'est l'artiste. Artiste, non, je sais plus. Je vais peut-être le chat me dira, mais pour moi, je pense que c'est le
meilleur
record.
Cette information floue, c'est va totalement.
En tout cas, Beyoncé détient un record, mais peut-être féminine, je sais pas. Mais en tout cas, mais j'étais compassionné. Elle a sorti un truc cette année? Je sais pas. Je suis du père, moi.
Non, je crois pas.
Ok, d'accord.
Non, il me semble pas.
Non, mais c'est marrant.
Elle est invitée d'honneur, quoi qu'il arrive.
Ce qui est un truc drôle aussi, c'est effectivement Billie Eilish a été récompensée pour sa chanson du James Bond, mais qui n'est pas sortie. Donc c'est rigolo de une chanson qui a été primée avant un film.
C'est
fou. Effectivement.
Du Jardin n'a jamais eu de César.
Ah, il a pas eu le César du Jardin. Il a eu l'Oscar. Ok.
On est passé de flou à carrément des mensonges. Avant, je suis pas sûr. Maintenant, on arrive sur des informations totalement erronées.
Non, il était à Cannes, pardon, certainement. Donc voilà. Donc non, je sais pas. Moi, petite dissonance. Moi, je mets plus de distance et tout ça. Puis aussi, on a moins consommé cette année.
Ouais, j'ai jamais regardé, donc pas plus cette année en vérité.
La vérité, c'est que sur Adieu les cons là de Dupontel. Je ne saurais même pas te citer d'autres films français qui sont sortis cette année. Donc, tu vois,
c'est vrai aussi.
Donc, en vrai, c'est vrai que c'est une année pour la culture un petit peu. Voilà.
C'est une deep fake news, effectivement.
Je suis dans le fake.
Je suis dans le deep fake, en fait. Ce n'est pas moi.
Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu d'études supérieures, mes chers amis?
Quelle angoisse, quelle angoisse.
Je vais prendre deux pour aller avec Sam aussi.
Mais non, mais en fait, je ne sais même pas jusqu'où vous êtes allés, vous, dans les études. Les étudiants, c'est pour vous. On parle de ça exprès pour vous soutenir. Parce que moi, c'est un peu la honte. C'est la teon.
Je vous aime, les étudiants.
Mais non, mais c'est vrai que c'est un moment de la vie qui est quand même très particulier.
Ouais.
Et ça forge normalement des beaux souvenirs.
Ou pas.
Et en ce moment, du coup, tu vois, je me disais, j'ai des petits frères qui sont en études supérieures ou quoi. Ouais. Putain, c'est pas la même vie étudiante que celle que t'es censée vivre, quoi. C'est pas
spécifiquement au Covid, on est d'accord.
En ce moment, tu vois, c'est tes années où tu vas dans les bars, machin. C'est ça aussi, quand même, tu vois. Et c'est autre chose, quoi. C'est un peu triste.
On est d'accord
quoi.
Qu'il y a un équilibre entre, tes études, qui sont quand même, c'est très studieux, t'as beaucoup de choses à apprendre, et t'as une sorte de
phase tu découvres la vie d'adulte,
décompression de ouf.
Ouais.
Avec l'alcool à profusion. Et
ça peut.
Souvent.
Et non, mais c'est vrai que...
C'est pas très équilibré, en général. C'est extrême, extrême.
Magali, il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Okay.
Je faisais les deux, mais en extrême et extrême.
Mais non, mais du coup, là, c'est vraiment très...
C'est vachement de solitude.
Les études sont le social.
Du coup, c'est vrai que c'est autre chose. Normalement, c'est le moment où tu découvres l'âge adulte sur tout ça, quoi. Donc, tu deviens autonome. Éventuellement, tu pars de chez tes parents si tu peux et tout. Tu travailles et tu fais tes cours tout seul.
Chez Moment, bien comme il faut. Quoi.
C'est vrai que c'est le premier pas dans la vie active où tu découvres des choses. C'est,
c'est un moment de la vie quand même important, quoi. Assez, enthousiasme. Enfin, moi, ça a été comme ça, en tout cas, mais... Ouais. Bah, du coup, c'est assez différent.
J'ai croisé moi mes petits cousins, petites cousines pour les fêtes de fin d'année et qui sont en études supérieures et ça peut partir en vrille. Je l'ai vu au sein de ma famille. Les études, c'est genre non, mais il faut être en visio, je sais pas quoi, c'est ciao. Mmh. Et qu'apparemment,
le décrochage
est insane. Ouais. Mmh. C'est simple, tu compares les chiffres, tu vois, et en fait, c'est vraiment beaucoup plus élevé en cette période. Donc, c'est vrai que ça doit pas être évident. Vous étiez du genre à décrocher ou à pas décrocher vous?
Moi, qui commence? Peut-être Magla, veux commencer?
Est-ce que vous voulez vraiment?
Parce que, pour rappel, Magla, elle frappait des gens en CP avec des bogues de châtaigne. Donc, qu'est-ce qu'elle peut potentiellement faire en Parcoursup? J'ai peur.
Parcoursup, ça a été très particulier parce que j'ai pris 3 ans après le bac, puisque j'ai travaillé pendant 3 ans. Et du coup, j'ai commencé en droit. J'ai fait 6 mois en droit à la fac. J'ai pas aimé. Je suis partie en éco-finance-gestion. Donc, j'ai une licence. Après, je suis partie à l'ECNA en école informatique. Ouais, j'ai de la finance dans mon parcours. Et j'ai fait une école informatique après en 6 mois. J'ai pas aimé. Et du coup, je suis partie en master de commerce international.
Voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose? Non, il y a tout. T'as tout fait.
Ouais, j'ai un peu touché à plein de trucs. J'ai adoré la fac parce que je n'y allais jamais.
Ça c'est super.
Mais par contre, moi j'étais résidente de la BU, la bibliothèque universitaire. Je passais ma vie là-bas, c'est trop bien. J'adore la BU, t'as plein de livres, t'as accès à tout. En début d'année, j'allais voir les profs, je demandais les ouvrages et ils savaient que je venais pas de toute façon parce que je travaillais 30 heures par semaine donc en plus je pouvais pas. Et du coup, je passais ma vie à la BU, à travailler et au sport et en rave.
Allez!
C'est un bon mix.
Donc j'ai adoré les études supérieures.
Mais t'as fait ça ça fait combien d'années en tout?
C'est ça que j'ai.
J'ai repris mes études, je devais avoir 19 ou 20 ans. J'ai fait ça jusqu'à mai 24, 2017, puisque j'étais en études encore quand j'ai commencé le stream, donc 2017. Ouais, j'ai fait ça 4 ans, environ 4-5 ans.
Ah ouais, donc les études après le bac, ça te connaît quand même.
Ouais, j'en ai fait pas.
Poil girouette, si je peux me permettre.
En fait, je me suis beaucoup cherchée. C'est pour ça les étudiants qui sont souvent en mode « Ouh là là, faut absolument que j'ai mon orientation tout de suite. » Alors vraiment, non, moi j'ai un parcours qui est vraiment chaotique. Mais vraiment chaotique parce que je savais pas ce que je voulais. Je voulais tester. J'ai testé des trucs en stage, ça m'a pas plu parce que tu te dis « Oh, ça a l'air intéressant en théorie, la pratique n'a rien à voir. » Et il faut se dire, c'est pas grave si vous perdez du temps parce que vous n'en perdez jamais, vous testez des choses.
C'est tout à fait te rendre compte que t'aimes pas quelque chose, c'est déjà un truc de cocher en fait.
C'est exactement ça. Ouais. Tu te dis au final, je teste un truc, mais ça veut dire tu le mets derrière et tu fais ok, on va peut-être voir ça peut me plaire, ça peut me plaire. Et puis même reprendre ses études à 30 ans, 40 ans, c'est pas grave non plus aussi. Très important de se le dire.
Mon petit frère qui du coup, doit choisir un peu dans ses études, etc. Et alors, qu'est-ce qui te chauffe? Il fait, je sais pas trop, peut-être ça, tu vois. Et moi, je suis en mode smash, genre, t'inquiète, tu vas trouver. Mais j'ai une grosse sueur dans le dos quand il dit ça. Je suis en mode, mais ça m'angoisse tellement ce moment de la vie. Ça m'a rappelé, ce vertige, quoi.
Parce que moi, je me rappelais souvent aussi c'était au CIU où on devait aller. Je sais pas si vous avez eu ça.
Je crois que je l'ai pas vu.
C'est des forums, hein? Non.
Je sais pas, il y avait un truc à côté de mon lycée. Je crois que je sais plus, c'est le CIO où tu devais aller voir et tu avais un rendez-vous avec une personne. Ouais. Tu devais faire blabla et à l'issue de ça, elle te dit, oh bah tiens, va sur cette voie-là, quoi.
Okay.
Et je me rappelle, j'avais des potes qui se retrouvaient avec tailleur de pierre. Et tu dis, quoi qu'à ça? Et tu vois, tu te prépares vraiment la semaine d'avant à dire, waouh, ça y est, à partir de ce moment-là, ma vie sera tracée.
Tailleur de pierre.
Et du coup, parce que c'est vrai que je trouve que. Il y a une construction un peu dans tes études de te dire il faut trouver la voie, cette voie. Et c'est vrai que tu te mets une pression de dingue, quoi. Et donc, c'est vrai, sur des petits rendez-vous au centre d'orientation, je sais pas quoi. Et effectivement, on te dit, oh mon Dieu, il faut y aller. Et tu trouves ça. Et puis, c'est souvent déceptif. Je sais pas pourquoi, c'est quoi leur grille ou je sais pas quoi. Et c'est déceptif. Et tu sors de là, t'es lessivé, t'arrives au bac, t'as cette pression du bac cette montée, mais derrière, il y a quoi, tu vois? Et ça, c'est vraiment un des pires, à mon avis, où je cauchemarde encore. Et c'est vrai que je pense que c'est très juste que tu dis, Manga.
Pierre, il a du mal à dormir.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah non, mais je te jure. mais c'est vrai qu'il faut accepter aussi de... je pense aussi des fois des pauses, se recentrer sur des choses et aussi tenter les choses.
Ouais.
Et la vie, c'est pas une voie.
Ouais, c'est ça.
Et justement, si tu te trompes et tout ça, bah, ça va te servir. Et,
je suis d'accord avec Manon.
C'est que de l'XP, quoi.
Qui est que de te tromper ou de savoir que t'aimes pas un truc, c'est déjà bien, en fait.
En fait, faut pas voir l'échec comme une fatalité et comme un échec. Faut voir l'échec en soi comme une façon de ne pas faire quelque chose.
Oui, totalement.
C'est positif, en fait.
Un peu plus trouver ton truc. Et en plus, je pense que nous, on est des générations qui allons et qui nous reconvertissons beaucoup. Ouais. On change de voie, on change de métier. Là où nos parents, peut-être, je vous me dirai pour les vôtres, mais moi, c'était un peu... déjà, à une époque, on trouvait du travail beaucoup plus facilement, quand même. Ouais. Mais surtout, il fallait avoir un métier stable. Et puis, une fois qu'on y était, c'était la carrière, c'était tracé, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est... eux, ils ont... ça leur fait bizarre quand on leur dit qu'on veut... démissionner pour lancer mon cours de DIY, truc, tu vois, mais bref, je pense qu'on est des générations et ça risque de se vérifier après, mais où on va changer mille fois de voix, enfin, moi aussi, c'est le cas, par exemple, et c'est ok. Alors, par contre, c'est pas forcément facile, mais
non, ça c'est sûr. Non,
voilà. Moi, j'adore le parcours de Julien Méniel, donc mon pote qui a fait Dans ton corps et qui était infirmier, puis ensuite journaliste, et puis maintenant elle est sur YouTube. Enfin, en fait. Tant que t'as la passion du truc et que tu te sens légitime, en fait, tu trouves ta place, tu vois. On n'est plus dans ce truc-là, genre, oui, monsieur, quels sont vos diplômes? J'ai pas votre CV au format PDF normalisé, mes couilles, tu vois. C'est... Oui, effectivement, nous, on est un peu plus... Mais est-ce que, finalement, c'est pas encore plus angoissant? Parce que tu vois des gens qui se reconvertissent et qui trouvent leur place. Et toi, quand tu tâtonnes beaucoup, t'es en mode, alors là, les gars, ça fait 10 ans que je tâtonne.
C'est ça, ouais.
Je me demande si, en fait, il y a une fin à tout ça. Tu vois.
C'est pas facile quand tu sais. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont pas passionnés par leur métier et qui me voient être transcendés par le mien et qui ont un peu cette vie difficile, entre guillemets, de j'aime pas ce que je fais, je sais pas quoi faire d'autre, mais j'aime pas ce que je fais. Et du coup, c'est pas rigolo parce que ton métier, c'est tous les jours et machin, mais.
Parce que si vous dire, ça dénote un certain privilège aussi de pouvoir se poser ces questions-là, et ça, faut le dire aussi. Ouais. Mais non, mais c'est juste de dire que tu te lances pas cette fois, va pas essayer de trop intellectualiser tout ça. Si tu fais ça, si ça te plaît là, après, il y a d'autres choses. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs un peu aliénants, moi, que je peux ressentir, donc, à savoir peut-être un syndrome de l'imposture ou l'impression de tâtonner, comme tu dis, et aussi d'être un peu moyen partout. Et du coup, ne pas forcément trouver ma voix. Et c'est que ça peut être un peu dur, mais je trouve que c'est quand même cool et stimulant de se dire qu'on peut être curieux de pas mal de choses. Et il ne faut pas hésiter, quoi, finalement. Quoi.
Mais tu as raison, c'est quand même un certain luxe de pouvoir démissionner, tenter autre chose. C'est un certain luxe, clairement.
Parce que quand tu dois payer tes petites factures et tout, c'est la galère.
J'ai fait un court-métrage sur justement ce que tu disais, sur le fait de comment dire, finalement pas avoir une carrière ou un truc qui te plaise vraiment. Et c'est un petit court-métrage qui s'appelle Fais un vœu, et on suit les rêves d'un gamin qui grandit. Du coup, au début, on voit ses rêves, et donc du coup, c'est un astronaute qui discute et tout ça. Puis ensuite, ça passe, et puis astronaute, il dégage parce que c'est trop d'études, vaut mieux être rockstar. Enfin, tu vois, il y a toutes ces étapes-là, quoi. Et il est amoureux aussi d'une fille au collège et blabla. Enfin. Et après, en fait, dans ses rêves, il n'y a plus qu'augmentation et propriétaire qui discutent, tu vois. Et du coup,
c'est l'entonnoir, au final.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est triste, tu vois. Et à la fin, je voulais quand même une ouverture un petit peu. Et c'est pas dans sa carrière qu'il est heureux, mais c'est plus dans son couple et dans sa famille.
Dans son entourage.
Et nous, clairement, autour de la table, on a cette passion de ce qu'on fait. Mais moi, je connais des gens qui sont plus heureux que nous autour de la table et qui font un métier qui les passionne pas trop.
Ouais.
Mais socialement, ils sont hyper heureux. Les potes de leur boulot, ils s'entendent tous très bien, mais ils sont tous d'accord pour dire que c'est nul. Et ensuite, ils ont une vie après le travail. Ce qui, nous, est très mélangé l'une avec l'autre. Mais eux, tu vois, c'est un peu plus dissocié et c'est la yes life à côté, tu vois.
Ouais.
Oui, alors que nous, la vie, c'est le travail.
Attends, j'ai pas vu le regard de maman.
Je
suis bloqué là-dedans. Mais non, mais c'est vrai, nous, c'est vrai, c'est le taf. Et d'ailleurs, si le taf, ça va mal, je sais pas pour vous, mais ça implique beaucoup.
Ou si la vie va mal.
Ah bah là, c'est le vaste communicant.
C'est moins dissocié avec des cadres. C'est vrai que moi, je vois une énorme différence avec mon ancien métier. Quoi.
Toi, genre, quand tu vendais des... Non, tu formais des logiciels...
Non, je vendais des logiciels de gestion de projet et je formais des gens à ça.
Ok, tu étais formatrice...
J'étais ingénieur commercial dedans.
Ingénieur commercial. J'adore ça. Cette facette de toi, Margla, me fascine vraiment.
Mais tu sais, je suis très calée en finance, économie et tout. Hein. J'adore ça, c'est un truc qui me passionne.
Et ben moi, j'ai fait 6 mois de fac d'éco-gestion. Bah, j'ai tout oublié. Et après, on va parler de ma LV1.
Allez, raconte-nous ta LV1.
Ça... Et du coup, à votre rapport aux études, vous aimiez ça ou pas, vous?
Bah, moi, du coup, je suis full le pur produit de l'école de la République, ouais. Dans une ville de classe aisée, qui fait que j'ai eu l'accompagnement qu'il faut et tout. Donc, j'ai toujours été la bonne élève. Je suis allée loin dans les études. J'ai d'abord passé le concours de prof des écoles, ouais, que j'ai eu et tout. Mais du coup, j'ai pas aimé les formations pour devenir prof des écoles.
Pourquoi?
Okay.
En fait, je trouve que les gens, à l'époque c'était l'IUFM, mais où on te forme à... En fait, c'est beaucoup de brassage. Les sciences de l'éducation à cet endroit-là, c'est beaucoup de brassage d'air qui sert à rien. Toi, t'es un petit jeune prof qui vient d'avoir son diplôme. Et t'as des mecs qui viennent te parler de la théorie de l'éducation participative, réfléchie, pensée, neutre, tu vois. Enfin, j'invente, hein, mais tu vois.
Ça, c'était pour être prof de l'histoire.
Prof des écoles primaires.
Ah, pardon, prof des écoles.
Et du coup, en fait, toi, t'es le petit prof qui... Enfin, tu viens juste d'avoir ton diplôme, t'avais une année de formation à ce moment-là. Et t'es là, juste donnez-moi un truc pour tenir ma classe. Juste, en fait, il crie. Et toi, on fait que
un outil, un truc qui coupe, je sais pas.
T'es là, je veux juste survivre et pas, je suis pas encore prête pour faire des grandes théories de sciences de l'éducation. Genre, tu sais, c'était tout le temps des trucs style. Alors, vous avez un groupe de 10 élèves et vous leur. Non, mais il y en a 30 dans la classe. On imagine un dispositif avec 10, mais ça n'arrive jamais, en fait. Bon, bref. Et du coup, c'était franchement hyper.
Ils ont tous des antennes sur la tête. Ah, d'accord, okay, je comprends. C'est vraiment très loin.
Mais je trouvais ça hyper ennuyant. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai eu mon concours, je me suis mise tout de suite à mi-temps pour reprendre mes études en me disant « je vais détester ce métier, j'ai détesté la formation ».
Donc t'as pas été prof des écoles ?
J'ai été prof à mi-temps en faisant mon master d'histoire en même temps ensuite. Donc là, j'ai enseigné et en fait, ça s'est très bien passé.
Quel âge ?
La première année, j'ai eu des CM2, ensuite j'ai eu des CE1 et ensuite j'ai eu des CP.
Donc il y a des gens.
Alors attends, parce qu'ils sont adultes
toi
maintenant.
Prof,
maintenant ils sont adultes et ils me retrouvent sur les réseaux sociaux certains.
Attends,
et ça fait très bizarre, oui.
Ah, c'est chelou.
Ils sont hyper mignons, ils sont tout gentils. Ah, vous étiez ma maîtresse.
Oh, c'est trop chelou.
Ils ont de la barbe et tout, genre.
Bah oui, c'est. Moi la dernière fois que je les ai vus, du coup. Alors mes CM2 c'est des 2000. C'était la génération 2000, donc maintenant ils ont c'est plus que des adultes, enfin
oui,
c'est pas des tout fraîches mythes. Et les CE1, c'était l'année suivante, donc eux t'as quel âge en CE1? 8 ans, un truc comme ça, ou 7 ans, enfin je sais plus exactement les années, mais CM2 la première année c'était des enfants nés en 2000. Je me souviens de me dire oh là là, j'enseigne aux 2000.
C'est trop marrant que ta prof ait 500 000 abonnés juste.
Du coup là, j'avais pas encore de chaîne à ce moment-là, donc par contre j'ai adoré enseigner, ça s'est très bien passé. C'est la formation que j'avais pas aimée, mais du coup j'ai repris mes études en même temps. J'ai fait un master d'histoire et j'ai eu la possibilité d'aller en thèse d'histoire.
Ah, génial ça.
Ouais, trop cool, avec un financement.
Pourquoi tu dis la possibilité? Ouais, c'est pas bon, je me rappelle, j'ai fait 6 mois après.
C'est juste que en gros il faut trouver, il y a un certain nombre de critères. Déjà il faut que tu aies une suffisamment bonne note en master pour que ton dossier soit pris. Il faut que tu aies un encadrant ou une encadrante de thèse, donc un chercheur qui va t'aider dans
suivre,
tes recherches
ouais,
et qui veut
fais.
Bien prendre ton sujet pendant plusieurs années.
Mais pas n'importe qui peut faire
et il faut
thèse,
que ça soit
fait.
Quelqu'un... en théorie, il faut t'inscrire avec certains critères et tout. Et il y a beaucoup de gens en histoire qui le font sans, mais moi, je voulais un financement pour pouvoir me consacrer uniquement à ça. Du coup, j'ai réussi à avoir une bourse pour faire la thèse.
Que ta thèse.
Ouais. Et j'ai commencé la chaîne YouTube pendant, et du coup, c'était un peu de travail aussi.
Ça t'a peut-être motivé un petit peu ou...
J'ai fait un vlog de thèse pendant la
dernière
année et demie, où j'ai expliqué ce que c'était la rédaction, la période de la rédaction, c'est à la toute fin quand t'as fini tes recherches, et là, c'est intense, hardcore.
Oh là là.
Et du coup, je faisais le vlog en même temps, et c'est pas du tout les vidéos les plus vues de la chaîne, parce que forcément, c'est un peu niche comme type de truc, mais c'est le truc, je pense, qu'on me ressort le plus souvent, en mode « Ah, j'ai regardé ça quand j'écrivais mon master, et ça me fait trop du bien, ça m'a motivée. »
Oui, c'était une sorte d'histoire. Partager.
Moi, mon vlog, c'était littéralement bon, cette semaine, je devais lire ce truc, j'ai pas fini. Je dois faire un rendez-vous avec mon directeur de thèse et je sais pas quoi faire. Enfin, bon, bref, c'était mes petits déboires.
On est obligé de poser la question maintenant, c'était quoi ta thèse?
Alors, les sujets de thèse, vous savez, c'est toujours.
Ça fait pas polémique en soi, j'ai l'impression.
Les sujets de thèse?
Non, mais c'est les gens qui ironisaient sur les les titres récemment.
Oui, oui, oui. Bon, oui, bah, la ministre, elle part en couille totalement.
Oui, ouais.
Elle, on l'embrasse, elle écoute l'émission.
Elle veut aller checker les chercheurs, faire des enquêtes sur les chercheurs qui font des sujets qu'elle estime problématiques. Enfin, c'est incroyable. Ouais. C'est... Non, mais... Bon, bref. Ok. Et du coup, moi, j'ai travaillé sur la déesse Athéna, qui est la déesse grecque de la guerre et de la sagesse, mais pas du tout dans l'Antiquité. J'ai travaillé sur Athéna au 19e siècle en France. Mais pourquoi, enfin, mais quelle idée ?
Mais pourquoi ?
Mais parce que au 19e siècle, l'Antiquité, c'est une référence super prestigieuse à la mode, etc. Aussi bien sur le plan artistique que politique, c'est l'époque où en France, on met en place une république pour la première fois, par exemple. Donc la république, enfin la démocratie athénienne ou la république romaine, voilà, c'est des références et tout. Donc l'État qui veut légitimer un peu son nouveau régime, il utilise des images inspirées de l'Antiquité. Okay. Donc moi, j'ai bossé sur ça, sur quand ils utilisent Athéna, pourquoi. Quel discours ils veulent lui faire porter, volontairement ou non, quelle réappropriation de sa figure. Ça touche au discours par l'image, à la propagande d'État, ce genre de truc. Voilà. C'est
voir.
Sûr que ça ne va pas sauver le monde, mais...
Elle n'a pas de flèche dans le cœur. Il n'y a pas, pas 12 heures qui s'écoulent et il faut se dépêcher. Ben, je ne comprends pas. Alors, c'est...
mais c'est très bien.
Bah, écoute, cool. Oui. Mais surtout, du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube pendant,
avec ça.
Pendant la thèse et j'ai fait... Ah, c'est vraiment très très bien en fait. J'aime bien cette activité. Ah là je vais finir ma thèse et faire que du YouTube en fait.
Mais ouais. T'es globalement studieuse parce que c'est un endroit où tu étais à l'aise. Et...
Oui, ça, oui, moi je suis quand même plutôt le produit de l'école qui a peu de difficultés.
Est-ce
et
que tu disais des trucs genre oh, je suis sûre que je me suis planté.
C'était non, toi.
Et là, les potes qui disent oh, arrête Manon, t'as une bonne note comme d'habitude. Et toi, tu faisais non, je te jure, Manon 18. Ah non, je me suis trompée.
Bah, figure-toi qu'au lycée, j'étais en bac S et c'était pas trop ma cam. Et du coup, je suis passée avec un petit 12 au bac, genre pas de mention. Oh,
attends, tu sais, je viens de voir la petite fêlure qui me fait du bien là.
Non, mais c'est juste pour dire. En fait, tant que c'est pas trop, c'est souvent ça, mais tant que c'est pas méga ton kiff et que c'est les études obligées, tu te défonces pas de ouf. Par contre, après, en histoire, j'ai adoré et là, je me suis donné à fond. C'est souvent ça, tu vois.
Le lycée, moi, j'ai détesté. Ouais. C'était obligé d'y être, d'être en présentiel en plus, du coup, quand.
Magla était déjà en Zoom 15 ans avant que ça existe.
Mais en fait, t'as des gens qui sont pas faits pour être en présentiel pour des études. Ouais. Mmh. Vraiment, le cadre, c'est moi le cadre me stresse. Mmh. C'était très compliqué. Et du coup, le fait d'arriver à la fac, on me dit non, t'es pas obligé de venir juste au TD. Je suis en mode ma vie.
Bah, moi, c'était le début de la fin. Enfin, c'était la fin des études.
C'est aussi un truc de pas décrocher du coup. En effet, si t'es
il faut être sérieux justement.
Ouais. Mais d'où l'intérêt d'avoir quand même un choix d'études assez prenant. Mmh. Parce que du coup, comme t'es pas obligé d'être venir, enfin que t'es pas stalké ou quoi, tu peux venir à peu près quand tu veux faire ton truc. Si t'as la passion, effectivement, tu vas pouvoir venir.
Ouais.
Moi, j'avais les Dailymotion et mes premières vidéos en parallèle. Ouais. Non, mais les études, c'était zéro à côté.
Ouais, mais tu vois comme quoi.
Du caca. C'était aucun intérêt, tu vois. Pourtant, j'étais pas mauvais et tout, mais juste, je faisais des trucs mais 100 fois plus intéressants.
Ouais,
tu vois.
Bah oui. Du coup, t'avais pas envie de faire ça. Ah,
c'est...
Mais en plus, souvent, en sortant du bac, c'est vrai qu'on prend. Enfin, quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, on prend un peu la fac en mode bon, je vais prendre ça. Et souvent, tu changes ta vie dans ces années-là quand même.
C'est quoi la branche qui récupère le plus de ce genre des gens paumés comme ça?
Les LEA.
Ah, ça,
c'est LEA.
LEA, anglais, japonais,
ouais,
anglais, espagnol, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Ou psycho. Psycho, pas mal aussi, je pense.
Bah, en histoire, c'est aussi un peu.
Tous les étudiants qui nous écoutent sont trigger, qui font. Moi, je suis paumé.
Mais peut-être
comment
qu'ils vont découvrir un truc génial qu'ils ont adoré dans cette licence-là, ou alors ils se diront, ce ne sera pas ça. Et
ouais, c'est ça. Moi, les trois quarts de mes potes sont passés par LEA pour ensuite trouver ce qu'ils font.
Ouais, c'est ça. Moi, du coup, j'ai aussi eu l'occasion pendant mon doctorat d'enseigner en TD à DL1. Donc, moi, je leur faisais cours. Et je leur disais souvent, j'en avais qui venaient s'excuser en me disant « Je suis désolée, je crois que je vais arrêter l'histoire, je suis vraiment trop désolée, je vous aime bien, mais en fait, du coup, c'est pas mon truc. » Et je disais « C'est très bien, ne fais pas si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème. » Et d'ailleurs, je leur disais même « Ça vous fait chier, ne venez pas en cours, c'est pas mon problème, démerdez-vous, on reste avec les motivés, c'est très bien. »
C'est vrai que ouais. Non, mais cette période un peu charnière, c'est...
J'aimais bien tout ce qui était les arts, tu vois. Mmh. C'est vrai que pour moi, j'ai fait genre le truc basique beaux-arts.
Mmh. Ah, c'est cool.
Mais j'avais pas forcément d'attachement et tout ça. Mais c'est dans cette année-là où j'ai un médium qui m'a le plus parlé, quoi. Mmh. C'est vraiment là où je me dis, ah bah tiens, la photo, c'est ce qui me plaît. J'ai fini mon année, j'ai fait ciao, bonsoir, et après, je suis parti en photo, quoi. Donc c'est vrai qu'aussi, parfois, de voir large ou quoi que ce soit, de suivre cette intuition qu'on peut avoir. Après, tu recadres et tu fais l'entonnoir sur des choses qui peuvent te plaire, quoi. Mais je sais que là, les beaux-arts, ça m'avait servi à ça. Bon, après, les beaux-arts, c'est très très étrange comme type d'études.
Oh, tu dois avoir des trucs sympas à nous raconter.
Ouais, non, je sais pas, mais après, moi, c'est vrai que le côté anxiogène des études, toi, ta place dans un, dans une vie de classe, tout ça, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Bon, après, moi, de ma posture aussi, le regard vis-à-vis du fauteuil roulant, tout ça, changeait beaucoup de choses. En plus, c'était une période où j'étais un peu en démission, enfin, décrochage familial, on va dire, en décrochage tout, en décrochage même par rapport à mon rapport à mon corps ou quoi que ce soit, ou même des fois, j'essayais de quitter le fauteuil roulant. Donc, j'étais en période de transition où les gens vont vivre d'une violence assez inouïe, le fait que je pouvais me lever de mon fauteuil roulant. Donc, il y avait toujours aussi ce filtre avec les gens, et du coup j'étais jamais bien, donc c'est vrai que j'arrivais pas à sociabiliser trop avec les gens, j'étais persuadé que tout le monde me détestait, et du coup j'avais vraiment juste, bon je vais en cours, je sélectionne des trucs comme ça, YOLO et tout ça, mais c'est vrai que j'ai vécu ça d'une violence assez folle quoi. Et après du coup je suis quand même allé en photo, après je suis parti de ma Bretagne, je suis allé sur Paris, et ma classe aussi j'arrivais pas quoi, puis ce côté un peu compétitif j'ai fait, oui.
T'as vraiment fait compétitif.
Ouais, compétitif. Ou je sais pas, je me sentais pas à l'aise et tout ça. Et du coup, je me suis fait pote, mais avec les grands. Enfin, les grands. Enfin, j'ai l'impression que c'était le CP avec les adultes, mais bon, les gens qui étaient plus haut que moi. Mais avec ma classe, j'étais pas bien, tu vois. Et en fait, ce qui m'a servi, c'est surtout, les stages. Où j'ai pu, enfin, que je décrochais. Et après, je me dis, allez, je tente, quoi. Mais c'est vrai que les études, c'est dur.
Mais en art, moi, j'adore, enfin, c'est ma passion, et le dessin notamment, et plein de choses, et je m'étais toujours demandé, est-ce que, tu vois, si je devais creuser des études dedans ou quoi, et bon, au final, je l'ai fait sans faire exprès, j'ai fait de l'audiovisuel sans m'en rendre compte, et tout ça, j'ai appris vraiment chaque truc par moi-même, en faisant les erreurs, en découvrant tout, en piratant mes logiciels, et en démerdant, quoi.
Bravo.
Mais du coup, je me demande si ça m'aurait plu quand même de faire des études là-dedans, c'est-à-dire d'avoir ce truc un petit peu plus académique pour apprendre juste ta passion, en fait.
Ouais, c'est bien.
Est-ce que ça formate les beaux-arts ou tu trouves pas?
Non, après, j'ai vu un peu j'ai eu des petits sneak peeks, enfin, d'autres écoles, et c'est vrai que je trouve que quand même, enfin, tu vois, par exemple, dans les formations de certains Gobelins ou Lumière ou quoi que ce soit, je trouve en photo, à une époque, je trouvais que c'est formaté de ouf. Okay. Et c'est quelque chose, je mettais un peu de distance là-dessus. Après, j'ai fait l'école de photo et je me suis rendu compte aussi qu'il y a des gens, ils te faisaient raquer et t'apprenais pas grand chose, quoi. Et puis, arrivait YouTube, et au final, moi, ma formation, j'ai jamais rien validé de ma vie, hein. J'ai pas eu de diplôme. Et en fait, j'ai tout fait avec YouTube en testant les choses. Bon, après, plus tard, à 33 ans, tu dis...
Les petits tutos, tu sais.
Les tutos, c'est la meilleure.
C'est moi, c'est Enzo, c'est vous apprendre comment installer ce logiciel.
Mais qui sont toujours hyper longs, mais pourquoi personne n'a fait une chaîne de tutos? Ça dure 30 ans.
Bah, il y a TikTok maintenant.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que sur TikTok, ils sont bien mieux. Grave.
C'est vraiment très bien fait.
Mais ouais, et du coup, au final, après, dans cette quête de légitimité dans ma vie au syndrome d'imposture, c'est vrai que j'aimerais bien me dire, j'ai un truc. Je le sais. Non, j'ai pas ça, mais c'est vrai que YouTube m'a vachement aidé et je me suis lancé directement dans la vie précaire plutôt qu'active. Mais c'est vrai que les études, moi, c'était d'une violence et c'est vrai que.
C'est ça la morale, ne suivez pas d'études.
Après, est-ce que c'est une finalité des études? Je ne sais pas.
Non, clairement pas.
Non, c'est. Bah, en fait, je pense que de toute façon, après le lycée, tu peux choisir d'en faire ou de ne pas en faire. Et c'est pas grave de ne pas en faire. Tu peux très bien aller, mon petit frère, et aller directement dans la vie active.
Mais c'est même beaucoup mieux si c'est à qui te faut.
Et il était super très bien. Oui, c'est ça. Ouais. Je trouve que souvent, de toute façon, en France, on met beaucoup la pression sur il faut faire des longues études, absolument. Enfin, c'est une énorme pression. Je trouve qu'on met une pression sur les
parce qu'on a des académies
très,
très fortes, je pense, et du coup.
Mais ça, c'est l'héritage de nos parents, je pense.
Ouais.
Où il fallait, si t'avais un diplôme, tu t'en sortais.
Ouais, c'est ça.
Déjà que sans, tu pouvais être du boulot, mais enfin, du coup, un peu normal de plaquer ce que t'as vécu sur tes enfants et de vouloir le reproduire, mais clairement, c'est différent, quoi.
Surtout aujourd'hui, avec du coup la pandémie, je pense que les étudiants ont une pression de malade sur les épaules.
Et le problème, c'est que là, actuellement, tu peux pas dire ciao les études, parce que tu peux rebondir derrière, tu peux pas rentrer dans la vie active. C'est,
mais après, moi, je pense que faut que les étudiants se disent, on peut se poser et peut-être réfléchir, est-ce que si j'ai envie de faire une reconversion plus tard, est-ce que je peux commencer à y réfléchir, etc. Parce que moi, j'ai plein de potes qui sont encore en études et qui, justement, profitent de ça en se disant, je suis chez moi, je vais tester des trucs à côté, peut-être le soir, je suis déjà là, je perds moins de temps. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas? Ils essayent de transformer ça en positif, justement, parce que sinon, c'est vrai que t'as peur, quoi.
Oui, tu m'étonnes.
Moi, je me rappelle quand je suis monté sur Paris et du coup, j'ai arrêté mes études, enfin mes 6 mois de fac d'éco-gestion à Aix-en-Provence. Et on me proposait du taf sur Paris et j'avais dit ce beau mensonge à mes parents. J'ai fait non, mais ça prend pas, je reprendrai les études, etc. Et j'y croyais un peu, tu vois. Ouais. Mais bon, après, j'ai découvert l'audiovisuel, j'étais payé pour ça. Bon, voilà, il n'y avait plus de, de marche arrière, faire de l'éco-gestion. En fait, j'étais pas mauvais là-dedans, mais il n'y avait rien de créatif là-dedans, tu vois. C'était des trucs, j'apprenais des causes sociaux, etc. Il y avait quelques trucs qui m'intéressaient, mais c'était intestable par rapport à la création vraiment, tu vois.
Ah, ça n'a rien à voir, ouais.
Donc, non, je n'ai pas repris les études derrière. Mais
c'est vrai que les tutos internet, ça nous apprend beaucoup de trucs dans nos tafs. Enfin, moi, j'ai appris le montage sur le tas. Alors, je ne dis pas du tout que c'est parfait ou quoi. Non, mais bon, voilà. Mais tu peux quand même apprendre énormément de trucs dans ce genre de métier sur internet. Et je trouve ça fou qu'il y ait des écoles de youtubeurs. Ouais. Il y a des trucs comme ça, c'est quand même incroyable, ça. Alors que je pense qu'à mon avis, le contenu, c'est des tutos. Enfin, je sais pas.
L'école d'e-sport.
Manon, on dénonce.
École de youtubeurs, tu fais une éco-gestion en marketing sur l'image. Et même en plus, maintenant, tu as de l'image numérique, etc. Enfin, moi, mon master était sur l'image numérique et tu apprenais des choses. Tu avais de l'e-sport dedans. Enfin, du coup, c'est cool. C'était vachement ouvert. C'était un truc qui venait s'ouvrir. Vive Sergi, RPZ.
Mais t'en as des youtubeurs qui ont fait école de commerce et du coup, vous s'en sont servis.
Je crois que t'allais dire école de youtubeurs.
Ouais. Ah,
vrai, est-ce qu'on connaît un youtubeur issu d'école de youtubeurs?
Il y en a, je suis sûr qu'il y en a un au moins en France. Attendez,
bonne question quand même.
On parle d'école de youtubeurs.
Contacte-nous.
Qui est 10 000 euros l'année, j'imagine. Oui,
c'est cher, c'est tellement cher. Et puis t'en as beaucoup qui sont des arnaques aussi. Énormément.
Oui.
Les trois quarts.
Il y a une gaming business school.
Est-ce que t'as pas appelé aussi pour faire des masterclass dans des écoles de youtubeurs?
Je crois bien.
Oui, j'ai fait ça, c'était bien payé.
Je crois bien. Mais
l'école FantaXU, je crois.
T'as raison.
J'en perds mon casque.
J'aurais dû. Mais oui, ça me dit quelque chose qu'on m'ait contacté pour intervenant de je sais pas quoi. Et non. Mmh. Le seul truc que j'ai parlé de YouTube, c'était à la Cité du Cinéma. Il y avait une école, dans l'école de Luc Besson qui a fermé. Hein.
Oui.
Et du coup, j'étais venu pour parler genre vraiment juste 30 minutes de YouTube et de tout ça. Mais je crois qu'eux, ils avaient un système d'intervenants. Il faut venir plein de monde. Bon, et des gens d'Hollywood, des trucs très stylés. Et Cyprien aussi. Il fallait bien une matinée un peu claquée, tu vois. Il fallait bien, tu sais, le cours que t'aimes moins, quoi. Donc, j'étais venu, mais sinon...
t'es pas non plus personne, on peut quand même dire.
Mais tu as bien raison de le rappeler.
Oh là là. Mais souvent, qui dit école, donc le côté studio et tout ça, ou fac, mais il y a aussi les à côté. Et
la moi, bringue,
tu vois, il y a quelque chose qui me fascinait quand j'étais jeune, c'était les week-ends d'intégration que je n'ai pas connu ou les trucs comme ça.
C'est les pires trucs, ça.
Et tu fais ça maintenant ?
Moi, j'ai fait juste une année de prépa littéraire juste un an après le bac. Et on n'a pas eu le week-end d'intégration, mais on a eu l'espèce de bizutage des deuxièmes années sur les premières années.
Ah, t'as eu un bizutage ?
Il était très soft par rapport à ce qui avait l'air de se faire dans les sciences dites dures. Mais nous, on devait écrire des poèmes ou faire un dessin, le photocopier, le vendre dans la rue.
C'est trop drôle.
Pour payer la soirée. Bon, jusque-là, c'est à peu près... Mais moi, j'ai du mal avec le concept du bizutage. En fait, cet esprit de « nous, les anciens, on l'a vécu, on va vous l'imposer », ça me rend ouf. Mais bon, bref. Du coup, j'ai mis toute ma mauvaise volonté. Et c'est moi qui ai rapporté le moins d'argent. Et donc, j'ai eu le gage qui était que je devais lire un extrait devant tout le monde d'un livre érotique d'Apollinaire, je crois. Ou de Rimbaud, je sais plus. Alors vraiment, tu vois, j'étais là... Oui, bon, bah, ok, chatte, bite,
verge,
cul.
Ouais.
Et tous les autres, enfin, pas les comment on dit, les bisuteurs, là, je sais plus comment on dit, ils étaient là. Oh là là, tu t'es gros mot, oh là là. Et j'étais là, waouh, bah, oh waouh.
Ultra vraiment,
genre, oh là là.
Maintenant, ce que tu viens de décrire, c'est exactement comment j'imagine les gens en section littéraire. Mais vraiment, il manque rien.
Bah là, ouais.
Le poème d'Apollinaire, le fait de glousser, vraiment, il manque rien.
Mais dans la cour du lycée, j'étais à l'internat du coup pour la prépa, il y avait je crois la prépa bio qui avait fait un truc où ils vendaient les fresh meat, enfin les premières années, aux enchères. C'était affreux, c'était hyper humiliant. Ils les vendent, j'ai une pote qui était dans cette classe donc je l'avais vue. Ils avaient rempli un questionnaire avant, ils montaient tout sur un piédestal et ils les vendaient, les deuxièmes années les achetaient. Donc, ils surenchérissaient.
Est-ce que c'était lié à la blockchain? Parce que ça peut m'intéresser. Ça peut peut-être avoir un potentiel.
Et les deuxièmes années surenchérissaient dessus. Et à la fin, l'argent était versé pour de vrai, pour la soirée pareille. Et en fait, ça donnait des trucs où, évidemment, c'était que sur le physique. Donc, une meuf mignonne, il y avait des gars qui ont balancé 50 euros. Enfin, c'était une somme, tu vois, pour les petits étudiants. Et d'autres où... 5 euros, personne, vraiment personne.
Oh là là.
Mais c'est horrible, c'est vraiment, c'est affreux. C'est affreux.
Et tout ça, l'issue de ça, c'était payé, full Ricard. Enfin, l'argent, c'était juste pour faire BDE
pour la soirée,
et la soirée,
si j'ai bien
quoi.
Compris, parce que c'était pas... Je les ai juste vus faire... C'était une copine qui était dans ces classes, je les voyais dans la cour faire ça. Oh mais t'es là, mais... Enfin, et... Oh, mais ça va, c'est bon enfant.
Là, c'est trop drôle.
Nous aussi, on l'a fait. Mais au secours, mais on n'est pas obligé de reproduire.
C'est horrible. C'est comme les listes au lycée, etc.
C'est ce genre de truc, ça me rend dingue.
Mais c'est... Ouais. Moi, j'aimais pas du tout ce truc...
Les BDE et tout. Bref.
J'ai jamais été... dans un truc très
Moi j'en ai fait après, en fait moi j'étais un peu lié à la culture club, enfin j'ai des amis qui étaient DJ et il faut savoir que des fois les DJ, bon, ils font pas que des rock en scène ou quoi que ce soit, ils vont faire souvent des soirées pour des alcooliers ou des marques de vêtements, mais ce qui paye très bien c'est les BDE.
Ouais. Ah ouais, ça paye bien.
Ça lâche des ronds ouf. Et du coup, il y a des DJ ou des groupes de musique qui vont faire des BDE. Et donc, du coup, j'ai vu ce que c'était, quoi. Mmh. Et c'est terrifiant, en fait. Mmh. C'est la crème de la crème. Donc, le film, je sais plus, c'est Kim Chapion.
Ouais,
c'est ça. Mais 10 fois pire. Et tu vois vraiment, en fait, moi, je mettais beaucoup de distance avec ce que je voyais sur Netflix. C'était des fois où je me disais, ouais, c'est les high school, t'as les quarterbacks ou t'as les trucs comme ça, élite. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Et en termes d'accompagnement sur de l'alcool, et c'est un drame en fait, quoi.
Ouais, je pense,
et au niveau de la colline et tout ça, et puis même de voir que t'as carrément des alcooliers qui vont se mettre avec des B2 sponsoriser des putains de soirées, quoi, avec de mise en danger des personnes, quoi.
Non, mais c'est fou. Et en plus, avec l'effet de groupe, tu te sens... Tout le monde dit, mais t'as qu'à pas le faire si tu veux pas, mais t'as tout un effet de groupe, ou si tu prends pas part au truc,
tu prends une pression.
T'es catalogué comme le nulos, enfin, c'est une pression. De...
Surtout que c'est un truc très franchouillard aussi.
Mais dans les commentaires, on nous dit que ça vient plutôt des States.
Ah, peut-être.
C'est un truc de States, peut-être, ça, je sais pas.
Avec
les maisons, ça a toujours existé, non? Ah, les
sororités, fraternités,
C'est poussé à l'extrême aussi, surtout.
Ouais, ou les week-ends de désintégration. Ouais. Enfin, tout ça, mais c'est assez flippant. Et je trouve vraiment que, enfin, moi, j'ai vu des gens tomber malade d'alcoolisme, mais en fait. Et déjà, il y a un truc qui est très, très français, c'est l'injonction à picoler, tu vois. Je pense qu'on a... Moi, j'ai dû participer à un moment, parce que c'est très culturel de dire « Ah, toi, tu bois pas, allez, bois un coup, un truc comme ça. » Et ça, fois mille, et t'as des problèmes d'alcoolisme, mais dramatiques, quoi. Et en soirée, c'est que des kids avec des kids où ils se refont un petit peu tout... Enfin, tu vois, c'est les chevaliers, là, t'as les lords avec leurs bracelets qui peuvent... Donc, ils se recréent une mini-société d'une violence assez inouïe. Et j'étais assez choqué de voir ça, quoi. Et je sais pas où ça en est maintenant, mais aussi de voir aussi les faluchards ou les écoles de médecine, où t'es genre... Wow.
Non, mais c'est fou. Parce
le bizutage n'est pas interdit en France, on nous demande.
Ouais, et moi, c'est ça qui me tuait, c'est qu'il y avait une espèce de... Enfin, les autorités du lycée, l'administration et tout, ne disaient rien, en fait. Et,
c'est ça.
Enfin, ils nous faisaient un petit... On n'approuve pas le bizutage, mais amusez-vous bien. Enfin, voilà. Tu vois, et là. Mais j'ai ça peur.
Et on est un peu cool aussi.
Non, hein, mais exactement. Mais ça va pas du tout. C'est fou. Et en plus, c'est une très bonne idée en vrai de faire un week-end tous ensemble pour se rencontrer. Mais on peut faire un truc très cool. On se prend un gîte tous ensemble et on se met pas
des
heures
Mario Kart.
Mario Kart,
c'est ça. Dans le chat, c'est dit, mais faites un MK8.
Mais on peut faire la fête sans se mettre des défis des anciens qui imposent aux nouveaux.
C'est quoi les faluchards? On nous dit ça. Justement, quelque chose.
Ça vient, je crois que c'est en école justement de. Enfin, quand tu veux docteur et trucs comme ça. Moi j'ai vu les faluchards où c'est quoi, c'est une espèce de bonnet où j'ai plein de pins ou enfin c'est très codifié.
C'est pas dans l'ouest.
Moi j'ai vu ça à Paris, donc je sais pas du tout, peut-être le chat dira, mais c'est très codifié, c'est comme des scouts mais de la picole, quoi, j'ai l'impression.
Oui, t'as des pins de
c'est ça.
Si j'ai fait tel truc, j'ai un
et un truc très masculin, bien évidemment, comme d'habitude.
Ils sont là.
Ouais, c'est le médecine et faluchard, quoi.
Ah, médecine.
Il y a école d'ingé aussi. Ah. Mais ça, du coup, moi, ça m'a terrifié. Et donc, c'était un privilège ou ça. Je sais pas, mais j'ai embrassé vraiment la précarité et je voulais fuir ça, quoi. Et je sais que même maintenant, à 33 piges, même de devoir rédiger un devoir, je suis genre, oh, c'est cool. Donc, je vous admire. Et surtout, toi, avec ta thèse,
ah,
là.
Ah ouais, la thèse, c'est ouf. C'est
Bon, après ça devient un vrai travail. Hein. Tu vois, tu fais de la recherche, quoi. Donc,
On doit t'appeler docteur, du coup?
Tu peux.
Ah, mais c'est vrai, ça.
On aurait pu
faire
des visages. Je peux le mettre sur mon carnet de chèques, si je veux.
Oh, c'est très, très, très cool. Parce que du coup, t'étais partie directement après le lycée. Tu savais exactement ce que tu voulais faire.
Non, justement, du coup, je savais pas trop. Donc, j'ai fait prof des écoles. Et parce que je viens... Classique. Je viens d'une famille de profs. Tout le monde est prof. T'as pas d'idée.
Ah, ouais.
Mais en fait, j'ai ma petite théorie sur ça. C'est que les adultes que t'as eu autour de toi toute ta vie, c'est que des profs à la maison. Et au lycée, au collège et tout, c'est des profs, aussi. Des profs aussi. C'est le seul modèle que tu as de c'est quoi la vie après. Donc, c'est pas systématique, mais...
Je suis trop pitié, Manon.
Mais très souvent, les enfants de profs, ils deviennent profs aussi, ouais, tu vois. Mais bref, donc je fais ça. Et comme je disais, ben, j'aime pas trop la formation. Donc, j'avais adoré l'histoire et je reprends les études.
Je me faisais passer en attendant, tu voulais tester quand même un petit peu. Et après, du coup, parce que t'es restée quand même dans les lettres, t'as fait une prépa de lettres.
Alors, en gros, juste après le bac, j'ai fait une prépa littéraire où, justement, là, je me suis mise à adorer l'histoire parce que j'avais un bac S avant. J'avais, bah, classique, pareil, deux profs d'histoire géniaux. Et du coup, c'est là que, voilà. Et ensuite, j'ai fait L2 d'histoire, L3 un peu pluridisciplinaire qui préparait au concours prof des écoles, le concours, le master et la thèse. Voilà.
Trop bien.
Mais, bah oui, enfin même, ouais, master, ça fait encore un peu études et tout, mais t'es déjà en train de faire de la recherche. Et en thèse, tu vis quasiment, c'est ça, le métier de chercheur. Enfin, c'est presque comme travailler. Enfin, moi, je t'ai payé, donc c'était comme mon métier, quoi, en gros. Et toi, t'as pas une L1 à nous raconter parce que...
Toi, t'as fait 6 mois d'éco-gestion.
Moi, j'ai fait 6 mois.
Pourquoi t'es parti en éco-gé, du coup?
Mais c'est comme ce que t'as dit avec les profs. Moi, j'avais une prof d'éco qui était géniale, qui est toujours d'ailleurs. Et du coup, j'étais bon, j'étais premier de ma classe dans plein de matières, notamment celle-ci. Et du coup, on m'a dit, vas-y, fais une école de commerce et je sais pas quoi. Tu vois. Et du coup, on m'a.
Oui, t'es bon, donc va dans le.
Du coup, on m'a dit. Vas-y, il y a une prépa bidule, école de commerce, je sais pas quoi. Je m'étais inscrit, j'ai pas été pris parce que j'avais des mauvaises notes en anglais notamment et ce genre de trucs. Et du coup, on m'a dit bon bah fais une fac d'éco et tu feras une admission parallèle pour des écoles de commerce, je sais pas quoi. Moi, je disais globalement oui, mais dans ma tête, genre vraiment, je dessinais des bonhommes et je faisais des blagues, tu vois. Et je me rappelle même à l'école,
ma tête, je dessinais des bonhommes. Non, mais ton cerveau, tu sais, un peu vide avec un bonhomme bâton.
Tu mets en image ce qui
comme
se passe dans ma vie.
Comme Homer avec le singe, avec ses bonhommes à la fin.
C'est ça, sauf que c'est un garçon qui gribouille le sol ou les murs. Et non, mais c'est vraiment ça, quoi. Et d'ailleurs, mes potes, moi, au lycée et tout ça, ils disaient ah putain, comme j'aimais bien faire un peu le con, jouer un peu la comédie et créer des trucs et tout, il me disait tu devrais faire de la radio, je sais pas quoi, mais il y avait pas YouTube, tu vois, il pouvait pas dire il faudrait que tu te lances sur YouTube. Ça n'existait pas, on savait pas comment ça marchait, tu vois. Donc du coup j'ai fait 6 mois et en parallèle moi je mettais des vidéos sur Dailymotion, sur YouTube aussi, je commençais à poster des trucs, quoi. Et en fait on m'a envoyé le mail qui a fait tout basculer. Oui, bonjour, je travaille pour 20minutes.fr.
Et là, ça a changé.
On cherche quelqu'un pour faire des vidéos, et visiblement t'aimes bien te mettre en scène, vas-y, monte. J'ai même pas terminé de lire le mail, je suis déjà dans le TGV, tu vois.
Allez, ciao. Ciao les bolos.
Non, mais c'était tu vois, c'était un salaire, c'était Paris aussi. Moi, j'ai toujours fantasmé, et je trouve à juste titre, tout l'aspect culturel de Paris. Ça me fait rêver, tu vois. Regarde, tu vois, là, hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à une expo. Bon, là, j'invente, mais
en ce moment, c'est un peu ça de la culture là-bas.
Oui, exactement. Non, mais depuis un temps, c'est horrible. Mais bon, voilà, c'est ça aussi qui m'a donné tout envie. Et puis, du coup, si tu veux, cet aspect éco-gestion, pour moi, il est loin. Il est très, très loin, tu vois. Mais finalement, ce qui est peut-être le plus gros échec de ma scolarité, c'est ma LV1 allemand. Puisque j'ai fait, quand j'étais en CM2, on avait fait des petits cours d'allemand, parce que je pense que c'est l'éducation nationale qui, dans le sud de la France, il n'y a personne qui fait allemand.
Mais non, personne.
C'est italien, espagnol, c'est tout.
C'est clair.
Et là, ils faisaient, on va faire une petite animation un peu allemand, je ne sais pas quoi. Ma mère a vécu en Allemagne pendant 2-3 années, ok?
Et ça a suffi.
Donc, Sprechen Deutsch, ein bitte, quoi. Elle parlait un petit peu allemand. Donc, je me suis dit, et là, mes potes, ils me disaient, ah ouais, allemand, il y a un potentiel, je sais pas quoi, tu vois. Donc, je dis à ma mère, on a eu des cours d'allemand, je lui apprends les petites chansonnettes et tout, verbis doux, mes couilles, tu vois. Elle fait, bah, c'est super, tu vas faire allemand! Je peux t'aider, je suis plus forte en allemand qu'en anglais. Donc, en plus, avec mes potes, on rigolait sur l'allemand, on va faire allemand alvéen. Quand je viens avec la feuille, tu sais, pour t'inscrire au collège, j'étais le seul de ma classe.
Donc,
on s'était tous dit, les yeux dans les yeux, viens, on va faire allemand alvéen.
Ça, c'est un motif de plus être pote avec, hein.
On était plus dans la même classe, en tous les cas, tu dis bien, parce qu'on était diffusé. Et donc, vraiment, je pense, eux, ils ont eu la même discussion que moi avec leurs parents.
Fait, pardon.
Qui ont fait, je crois pas, non, tu vois, tu vas faire anglais. Et au final, j'étais dans une classe d'intello, puisque ceux qui faisaient allemand alvéen étaient des intellos, des gens comme Manon.
Non, mais
qui étaient vraiment, ils faisaient même latin, tu sais.
Voilà,
mais c'est trop bien le latin.
Ça sert à rien que je te pose la question, Manon, ça se voit sur ton visage.
I know.
Et ces gens cumulés, tu vois, moi, quand. quand il y a eu latin, veux-tu t'inscrire à latin, on va se calmer déjà. Bon, j'ai fait allemand, ce qui est la plus grosse erreur de ma life, tu vois. Mais en tout cas, j'étais dans une classe assez, on va dire, exigeante parmi les élèves, tu vois, parce que c'était vraiment des têtes, quoi. J'étais bien évidemment le dernier de la liste, tu vois. Les têtes, les moins têtes. Oula, ça commence à puer là. C'est qui, Cyprien? Yes. Et au final, je n'ai pas progressé entre ma première et ma dernière année d'allemand. C'était le même niveau de Allô, Guten Tag, wer bist du, tu vois.
Et tu chantais toujours les chansons.
Crocodile. Ah oui. Allô, Guten Tag, wer bist du. Super chanson qui passe dans tous les clubs actuellement. Okay. Et donc, c'était le niveau 0-0. Et il s'est passé un truc exceptionnel pendant l'oral. Parce que moi, ensuite, j'ai tellement honte de mon niveau d'allemand que j'ai passé ma LV1 en LV2. Tu vois, c'est que vraiment, une manière, si je pouvais la passer en LV0, je l'aurais fait. Et pour avoir finalement l'allemand en oral au bac. Et c'était uniquement pour que ce soit moins douloureux. Pas que ce soit trop long. Tu sais, genre 30 minutes et c'est terminé, tu vois. Je dis quitte à ce soit la honte. Et je me rappelle, c'est simple, tu sais, parfois tu mises sur des. Un peu des trucs que tu vas réviser ou quoi.
Oui, bien sûr.
Ouais. Okay, moi, c'est simple, j'avais révisé un mot. Okay. Ça, moi, c'était un mot. Okay, que j'ai retenu aujourd'hui, qui est Wiedervereinigung, qui veut dire la réunification après la chute du mur de Berlin. Donc, de toute façon, c'est simple. L'histoire de l'Allemagne, il n'y avait que. Il y avait un seul événement. Le reste, c'était plutôt peu touchy, tu vois. Donc, je passe Laura et je fais Guten Tag, wer bist du.
Et le bonhomme bâton dans la tête.
Voilà, ouais, qui était en train de dessiner sur les murs, tu vois, avec mon pastel, quoi. Et là, t'avais les profs en face, enfin la prof qui me disait va se passer, je sais pas quoi. Moi, j'étais là, Wiedervereinigung. Et là, tu vas dire, bon, une phrase quand même. Et à la fin, vraiment, non mais c'était une catastrophe totale. Et ce qui est marrant, c'est que cette orale là fait partie de mes premières vidéos sur Dailymotion. Parce que vraiment, j'avais fait une vidéo pour dire, au fait, les gars, j'ai fait l'oral d'allemand, j'ai plus ou moins dit. Et au final, j'avais eu 13.
Ah bah,
putain, quand même. Pour un mot.
Je recroise ma prof d'allemand qui, elle, m'a eu pendant pas moins de 4 ans au lycée, tu vois. Niveau zéro, je triche. Au début, tu sais, je mettais des. Il fallait apprendre un peu les déclinaisons, tout ça. Je mettais des fiches. J'avais imprimé en tout petit les Der, die, da, des, mes couilles et okay. tout. Et je l'avais mis dans ma trousse pour tricher. ça a été valable pour les deux premières années. La troisième année, je m'étais carrément posé sur la trousse, tu vois. La dernière, je venais plus, tu vois. Donc comme ça, au moins, c'était le seul truc que je fuis à fond. Et bref, j'en parle à ma proche. Je fais, j'ai eu 13 et tout. Et vraiment, elle m'a mis la main sur l'épaule. Elle m'a dit, mais tu sais, nous, dans le sud de la France, les examinateurs...
On donne
des points. Enfin, elle m'a dit, globalement, ça commence à 10. Et j'ai fait, ça a du sens, en fait. Parce que 13, ça n'avait pas de logique. Voilà, c'était mon.
Le hold-up, putain. Non, comme quoi.
J'embrasse. Hein,
faites tellement dans le sud au final. Hein.
Ouais, voilà.
Mais le pire, c'est que. Non, mais. Donc, une vraie brêle, et j'avais même un rejet carrément de cette langue, et j'ai fait deux échanges scolaires avec des Allemands, tu vois. Donc, vraiment, je me suis retrouvé dans le pays qui
c'est
était.
Trop bien,
mais pourquoi
selon
tu
moi,
nous parles d'une mur de Berlin
c'est accueillant.
Il dit la même phrase tout le temps en allemand.
Wiedervereinigung, oui, si tu cherches à chercher quelque chose, c'est pas ce qui se passe. Ah, on me dit que j'ai eu 6. Eh ben, j'ai eu deux fois plus que toi. Mais les gens allaient en Italie, ils faisaient des trucs en Espagne et tout. Moi, j'allais à Stuttgart.
Manger des wursts.
Manger des pretzels et des. Tu vois, je vais pas dire que c'était nul. Je peux le dire aussi, c'était nul. Non, mais j'ai pas aimé Stuttgart.
Quelle chance, en vrai, la prof, elle se défonce et tout, elle organise des voyages pour ses élèves en se disant non, mais ils vont être trop contents, on va partir en voyage.
Et Cyprien qui défonce.
Et qui dit juste une phrase au passant, tu sais.
Oui, le mur de Berlin, oui. Putain, il est relou.
C'est celui-là que t'as appris, hein, de moi. Ah bah,
réunification. Je pense que ça doit pouvoir se mettre à d'autres endroits, tu vois. Mais c'est dans des.
Donc, moi, ayant écouté Rammstein, je sais plus d'allemand que toi, quoi.
Très certainement.
Putain, il nous reste plus que 8 minutes 30. C'est horrible.
Est-ce qu'on a des petites questions qu'on peut poser à Manon?
J'ai sur le drive, mon très cher Cyprien. On a vu où tu trouves. Tes inspirations pour tes vidéos, emoji aubergine. Parce que
pour la vidéo aubergine en particulier.
Apparemment, parce que tu as une thématique, apparemment, tu tournes autour un peu de.
Alors attendez, je veux répondre à ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent tu fais beaucoup de vidéos qui parlent de cul et nana.
En vrai, les amis, si vous comptez si vous les chaînes le de mes vidéos, si vous comptez, figurez-vous, j'ai fait le compte une fois pour voir, il y a à peu près 10% de mes vidéos qui parlent de ce genre de sujet. Si vous vous souvenez uniquement de celle-ci, ça en dit plus long sur vous que sur moi. Voilà. Sorry.
Comme les gens sur TikTok, ils disent « Ouais, j'ai que des culs » et des trucs comme ça. Bah alors, là, c'est peut-être ton algo.
Oui, alors déjà, voilà, exactement. Mais du coup, je cherche les inspis un peu à tous azimuts. Ouais. Genre, cet épisode sur l'aubergine molle, c'était une chronique d'un podcast qui s'appelle Pardon Maman, que je vous conseille si vous voulez découvrir. Voilà, ben là, on voit la petite Charlie. Ah. Sinon, bah, voilà, ça peut être une lecture. Les éditeurs, ils m'envoient pas mal de bouquins. Donc, du coup, je découvre des trucs comme ça. Une chronique à la télé. Je regarde pas trop la télé, mais plutôt les replays ou les Arte en ligne ou voilà, ce genre de trucs. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi en vérité.
Il y en a une autre question. Si ton regard ne s'était pas porté sur YouTube, où penses-tu que tu serais aujourd'hui ?
Eh ben, j'imagine que j'aurais cherché du boulot en recherche, du coup. Enfin, c'est ça le projet à la base. Mais ce sont des places extrêmement chères, pour le coup, très dures à avoir. Donc, je ne sais pas si j'aurais réussi. Ça, c'est une autre question.
Tu serais en train de t'embrouiller et te tape avec Frédéric Vidal en ce moment. Quoi.
Putain, peut-être.
Quel plaisir, quoi. Ouais. Quel fait mythologique ou historique te traumatise encore ? C'est quoi le truc qui t'a, dans tout ce que t'as étudié, tout ce que t'as vulgarisé ?
J'ai fait, je pense que alors vous connaissez tous le complexe d'Oedipe, parce que le garçon qui couche avec sa maman et qui tue son papa, on s'en rappelle, mais il y a une autre histoire d'inceste.
L'Electre ?
Electre, c'est pas une... les frères et... C'est vrai. Elle, c'est Mira, et donc Mira, elle... mais c'est pire parce qu'elle veut. J'en ai fait un TikTok qui a fait bizarrement 1 million de vues.
Tiens,
bizarre. Et du coup, elle veut coucher avec son papa. Donc elle souhaite. C'est pas comme Oedipe qui fait ça par accident, qui essaye d'éviter. Au contraire, il se trouve qu'il sait pas qui c'est sa vraie mère.
Ok, d'accord. Ah oui.
Mira, elle est pas.
Mira, elle veut coucher avec son père. Et donc elle met en place un truc et elle y arrive. Et, et voilà. Si vous voulez aller voir, scroller sur ma page TikTok, vous tomberez sur le seul qui a 1 million de vues et vous pourrez apprendre cette petite.
Et du coup, t'es tombé comme ça en faisant des études et t'as un truc qui te traumatise ou...
Traumatisé, je sais pas, mais celui-là, il est pas mal. Celui-là, tu dis, parce que vraiment, l'histoire s'est décrite en mode elle sait que c'est très très mal et il faut pas faire ça. Et donc elle se morfond, elle veut se suicider. Mais sa nourrice lui dit non, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ? Parce que je veux coucher avec papa. Ah oui, c'est chaud. Mais te suicide pas, je vais t'aider à coucher avec papa. Et c'est ça qui se passe.
Il y a une belle grosse dédie, je suis ici.
Genre, best nourrice, en fait. Tu vois, genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Pareil, les petits bâtons.
Moi, je cherche pas à coucher avec mes parents. Hein.
C'est bien.
Dans le chat, on nous dit le complexe de deepfake. Vous pouvez bannir cette personne, s'il vous plaît. Aucun jeu de mots dans les
questions. Oui. J'ai une question, c'est quoi ce que t'as préféré ? Est-ce que tu préfères justement
comme sujet en mythologie, tu veux dire ou en fait, j'ai pas. En fait, ce que je préfère, c'est les contes qu'on appelle étiologiques. C'est toutes les histoires qui racontent. Ça vaut pour la mythologie grecque et romaine, mais pour même des histoires dans la Bible ou dans plein d'autres folklores, etc. C'est les histoires qui racontent pourquoi le monde il est comme ça autour de toi avec une légende, tu vois. Genre un peu comme Kipling a fait avec l'enfant d'éléphant qui se fait agrandir la trompe et c'est pour ça que les éléphants ont une longue trompe, tu vois. Genre il y a des trucs comme les coraux, ça vient de Persée qui a coupé la tête de Méduse qui pétrifie, vous savez. Et en fait il l'a oublié, enfin à un moment il l'a posé sur la plage, il y a le sac qui l'a contenu qui s'est un peu ouverte. Et ça a pétrifié des algues qui étaient là, et hop, ça a créé les coraux. Ah,
c'est
trop, des histoires trop jolies et tout. Ouais. C'est les contes
très poétiques, j'aime
bien. C'est essayer d'expliquer avec le peu de personnes mythiques que tu as autour de toi, tu dis ça vient de.
Il y en a plein. Ouais, il y en a plein pour plein de fleurs, la couleur de tel truc qui a changé, qui en fait est devenu noir parce que Nani. Voilà, j'aime bien cela.
Ah, c'est chouette.
Ouais.
As-tu des projets hors YouTube ?
Alors très bientôt, vous pourrez me voir à la télé d'ailleurs, moi-même qui n'ai pas la télé. Je vais être chroniqueuse, en fait on a déjà tourné 2 saisons, mais ça commence la diffusion de la première le 10 avril. Ouais, Covid et tout, ça a un peu décalé. Et je vais être chroniqueuse dans une émission, dans un magazine d'histoire qui se monte sur Arte. Avec l'historien.
C'est vrai que de toutes les chaînes télé, j'aurais pas dit celle-ci, hein, vraiment. C'est très surprenant de ta part.
Écoute, j'ai fait des passages chez Click aussi, tu vois.
Ah, c'est vrai, ça.
C'est très différent. Mais là, c'était juste ponctuel. Et du coup, là, c'est une émission qui est présentée et dirigée par Patrick Boucheron, qui est un historien assez médiatique déjà, qui est pas mal, qui a déjà une émission avec Arte et tout. Et en fait, c'est un mec qui a un parcours hyper prestigieux et qui pourrait être un connard d'élitiste. et pas du tout qui s'intéresse à la vulga. Il aurait pu être formé dans un moule. Il est au Collège de France, nanana et tout. Et en fait, pas du tout. Il s'intéresse beaucoup à la vulga. Il regarde des chaînes YouTube. Et c'est quand même assez original pour un historien
Michou,
et tout.
Tim Crouton et des fans.
Et je pense qu'il était même Squeezie Furt, mais
les meilleurs sont Squeezie Furt.
Et bref, et du coup, ça m'a fait hyper plaisir parce que quand il a monté cette nouvelle émission, il a dit « Je veux Manon Bril dans mon émission ».
Oh, c'est trop stylé.
Et là, j'ai fait « Oh, waouh !» Donc du coup, j'ai une petite pastille à la fin de l'émission, une petite chronique. Et donc, ça commence en avril, ça s'appelle « Faire l'histoire ».
Trop
bien. Il y a plein de gens qui nous demandent ça, Team Noiriel ou Boucheron. Mais qu'est-ce que...
Alors, en fait, c'est parce qu'ils se sont... Donc moi, perso, je les adore, les deux, je les trouve facilement les deux, mais c'est donc deux historiens, donc Boucheron, avec qui je travaille. Et Gérard Noiriel, c'est en fait, ils se sont, clashés, on va dire, autour de la question des gilets jaunes. Et du coup, Noiriel, c'est un historien spécialiste des mouvements sociaux, etc. Donc, il s'est beaucoup intéressé aux gilets jaunes. Et il y a aussi lui-même milité dedans. Les gilets jaunes, c'est un groupe extrêmement vaste avec absolument des profils extrêmement différents dedans et tout. Donc, lui, il a milité dedans. Et il a répondu à Boucheron qui avait... à ses yeux, parler dessus sans assez connaître. Boucheron a dit que non, nan, nan. Enfin bref, donc ça fait un petit clash.
Le Boubacarisme, hein, comme
exactement.
On
connaît. Exactement, Octogone, ouais, Noirel, Boucheron. Terrible. Est-ce que, juste des petites recos, ouais.
Ah oui, on arrive à la fin de l'émission.
Une
minute trente pour faire les recommandations, s'il vous plaît. Magla, est-ce que tu as quelque chose à recommander?
Oui, je vous recommande quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Papayou, et vous retrouverez du coup son compte Insta, je pense que Merle va le trouver. Illustrateur, concept artiste, qui a également un webtoon, et je vous conseille d'aller lire, d'aller voir tout ça. Il est extrêmement doué, donc let's go.
Moi, très rapidement, allez checker la chaîne Twitch de Sylvain, qui a fait un plateau extraordinaire sur Unreal Engine et qui va disrupter le monde du Twitch game. Allez voir, c'est tous les mercredis, je crois, son émission. Allez checker ça tout de suite.
Oui.
Moi, j'ai un compte artistique que je trouve magnifique aussi bien sur Insta que sur TikTok, qui s'appelle D12. D-E-D-O-U-Z-E.
J'adore.
TikTok sublime.
Un illustrateur qui fait de la 3D.
Trop, trop beau. Et le compte Insta qui va avec, avec ses dessins très, très jolis.
Et moi, c'est une BD que je trouve formidable. Je sais qu'on parle pas de BD. Et ça s'appelle Un coin d'humanité. Je l'ai pas avec moi, j'ai juste la photo. Et c'est une BD de Keck qui raconte, sa vie de bénévole au Resto du Cœur. Okay. Et c'est vraiment une BD. Si vous l'achetez, les fonds seront reversés à l'association. Et c'est passionnant. Tout le monde devrait savoir comment fonctionne.
C'est génial.
Les bénéficiaires de ce genre d'association. Nous arrivons à la fin de la mission. Et j'ai adoré.
Ouais,
merci Manon de ta présence.
Merci beaucoup. Vraiment ultra intéressant. Trop cool.
On se retrouve la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to. Courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.